Europe 1,
18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour deux heures d'information, d'analyse, de débat avec de très beaux invités. Vous allez l'entendre, c'est votre grand journal du soir qui s'élance à la une. Des députés et La République en marche en colère, y compris contre Emmanuel Macron, une ministre, Muriel Pénicaud, dans le viseur, et un chef de gouvernement qui assume sa responsabilité. Bref, la majorité tente, autant que possible, de ramener le calme dans ses rangs après la crise autour du congé de deuil d'un enfant. C'est à la une de votre journal, Sébastien Krebs. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Le cancer est en forte progression dans le monde et les cas vont se multiplier dans les prochaines années. Triste constat à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer. Quand la maladie est diagnostiquée, comment les familles, le conjoint, doivent réagir? Une autre façon de parler de la maladie avec mon invité ce soir à 18h20 dans ce studio m'accompagnera le chirurgien cancérologue Rémi Salmon. Les grandes voix à 18h30, Najat Vallaud-Belkacem de retour en politique, tiens, et puis l'aile gauche de la majorité qui s'organise pour faire contrepoids à la droite, agitation donc à gauche. 19h30, les températures trop douces de ces derniers jours inquiètent, l'urgence climatique est là, la pêche, l'élevage industriel ne font rien pour arranger les choses. Hugo Clément a donc décidé lui de devenir végétarien, le journaliste écolo sera dans ce studio. Toute l'info et le regard vers le monde qui change, c'est à suivre jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Réveillez-vous! Réveillons-nous!
S'il vous plaît.
Ambiance délétère dans les rangs de l'Assemblée aujourd'hui. La question du deuil parental met le feu à la majorité. Le gouvernement rétropédale.
Je leur dis merde, s'est énervé Édouard Philippe tout à l'heure devant les députés En Marche. On vous raconte les coulisses d'une réunion houleuse.
Trop de dépenses, zéro résultat. L'État épinglé par la Cour des comptes pour sa gestion dans la lutte contre les pesticides.
Une enquête judiciaire ouverte pour viol après les accusations de Sarah Abitbol. Nous passons coup de fil du 18h à l'ancienne patineuse.
Dans ce journal également, la grève contre la réforme des retraites fait déborder les poubelles à Paris et à Marseille.
C'est atroce, terrible, horrible. Il y a des souris qui passent, il va y avoir des rats certainement la nuit. Et on a l'impression d'être au 15e ou au 16e siècle.
Le préfet de police de Paris réquisitionne des personnels.
Et puis situation ubuesque aux États-Unis, toujours pas de résultat à ce stade pour la primaire démocrate dans l'Ohio.
Nous venons de donner au président Trump le meilleur argument du monde. C'est une humiliation pour le parti démocrate.
C'est bien dans l'Iowa. Désolé, la bourse de Paris en nette hausse, plus 1,7% à 5 935 points.
La tendance météo, bien en France avec vous Anissa.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Et c'est une accalmie que je vous propose à partir de demain, avec une carte qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, un ciel dégagé et beaucoup de petits soleils sur la carte de France. Ça c'est une bonne nouvelle, mais attention au vent, je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Faut-il y voir un début de rébellion au sein des députés de la majorité, souvent traités de simples godillots? Tout est parti d'une proposition de loi retoquée par le gouvernement la semaine dernière. Proposition qui visait à allonger le congé accordé aux parents pour le deuil d'un enfant, le passant ainsi de 5 à 12 jours. Tollé et climat électrique au sein de la majorité.
Du coup, le gouvernement rétropédale. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, annonce devant une assemblée survoltée le lancement d'une concertation.
La proposition de loi soulevait une vraie question, celle de la situation dramatique et sans équivalent de la perte d'un enfant. Il existe encore beaucoup d'aspects non traités et ça va être l'objet de la concertation que je mènerai avec Adrien Taquet, les parlementaires, les partenaires sociaux et les associations.
Adrien Beck, vous êtes à l'Assemblée, tout s'est joué après une réunion plus couleuse un peu plus tôt à huis clos entre les élus de la majorité et le Premier ministre.
Oui, version pudique, ça donne un long moment de catharsis, dixit un député. Version plus franche d'un autre participant, ça a gueulé, je n'avais jamais vu ça. Une trentaine d'interventions, plus de deux heures d'échange, des députés excédés avec l'impression d'avoir été lâchés par le gouvernement face à la polémique, lâchés et même enfoncés par Emmanuel Macron qui a demandé dans le week-end de l'humanité à sa majorité. Je ne comprends pas ces paroles, ça me touche dans mon honneur, a confié une députée, la voix tremblante. Quand un autre accusait le chef de l'État d'avoir alimenté l'engouement médiatique, c'est la première fois que des députés s'en prennent ouvertement à Emmanuel Macron. Alors face à sa majorité, Édouard Philippe a tenté d'éteindre le début d'incendie qui prend, y compris chez les plus loyaux, une part de responsabilité vient du gouvernement. Je l'assume, a-t-il dit, façon de soutenir les parlementaires. Soutien aussi à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, mise en cause elle aussi jusque dans son propre camp. Tous ceux qui iront chercher chercher la responsabilité ailleurs sur Muriel, en interne ou en externe, a dit Édouard Philippe. Je leur dis merde.
Voilà, c'est dit. Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Le gouvernement, qui a aussi été épinglé aujourd'hui par la Cour des comptes pour le peu de résultats en matière de lutte contre, cette fois, les pesticides.
Bonsoir Eve Roger.
Bonsoir.
Résultats en deçà des objectifs, disent les sages, avec un constat très clair. La France dépense beaucoup, 400 millions d'euros par exemple en 2018. Sans effet, la même année, la consommation de pesticides a augmenté de plus de 20%.
Alors, pour la Cour des comptes, les mesures mises en place depuis 2008 et leur financement sont tellement complexes que ça en est contre-productif. En clair, l'incohérence et la dispersion des moyens ont neutralisé les effets positifs des différents plans mis en œuvre. Et au-delà de cette complexité administrative, les spécialistes du dossier pointent un problème concret. Depuis 10 ans, les agriculteurs sont obligés d'utiliser plus de pesticides, tout simplement parce qu'ils sont moins efficaces, les cultures deviennent résistantes, un peu comme les bactéries avec les antibiotiques, explique Claudine Joly de France Nature Environnement.
On est confronté de plus en plus à des résistances, en particulier des mauvaises herbes, et qui fait que l'agriculteur qui continue sur ce type de pratique se trouve obligé d'utiliser progressivement de plus en plus de pesticides.
Résultat, on est loin du compte, dit la Cour. La preuve, la France visait une baisse de 50% des pesticides en 10 ans et la consommation, vous l'avez dit, ne cesse d'augmenter. Et pour tenter de renverser la tendance, les sages recommandent à l'État de simplifier les dispositifs, donc, mais aussi de favoriser l'émergence de produits de substitution.
Beaucoup, Eve Roger, chef du service Société d'Europe 1.
Il y avait un malade dans le deuxième avion qui a rapatrié des Français de Wuhan en Chine. Un citoyen belge qu'a identifié à son retour à Bruxelles, malgré une absence de symptômes. Les passagers français de l'avion, eux, sont toujours en quarantaine dans les Bouches-du-Rhône. Ils sont tous négatifs, assurent aujourd'hui les autorités de santé françaises après une première batterie de tests.
Et justement, en Chine, le gouvernement admet des insuffisances. 425 morts, dernier bilan. Et pour la première fois, un mort à Hong Kong.
Et de ce coronavirus, à ce stade, il ne s'agit pas d'une pandémie, estime l'OMS, comprendre pas d'une épidémie mondialisée, mais des mesures spectaculaires continuent d'être prises, des consignes données. Londres demande à tous ses ressortissants de quitter la Chine s'ils le peuvent. La France, elle aussi, modifie ses consignes et conseille de reporter tout déplacement vers la Chine qui ne revêt pas un caractère essentiel. La France qui recommande également aux ressortissants français qui se trouvent sur place de s'éloigner momentanément du pays, s'ils n'ont pas de raison essentielle de s'y trouver.
Il est 18h06, vous écoutez Europe 1, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Cette fois, c'est bien la justice qui va se plonger dans le monde du patinage artistique.
Le parquet de Paris ouvre une enquête pour viol et agression sexuelle sur mineurs après les accusations de Sarah Abitbol, l'ancienne patineuse, met en cause son entraîneur, Gilles Beyer. À l'époque, elle avait entre 15 et 17 ans.
Et c'est notre coup de fil du 18h ce soir. Bonsoir Sarah Abitbol.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous sur Europe 1. Il y a d'abord eu votre livre, il y a donc maintenant cette enquête judiciaire. C'est ce que vous attendiez ?
Écoutez, je ne m'attendais pas à tout ça, honnêtement. Et c'est vrai que là, les décisions sont prises assez rapidement et ça prend une ampleur vraiment incroyable. Et oui, c'est un soulagement, effectivement, et je ne m'attendais pas à ça. Non.
Hier soir, la ministre des Sports, hein, Roxana Maracineanu, a demandé au président de la Fédération des Sports de Glace de démissionner. On a entendu sa réponse. Pour l'instant, il n'en parle pas. Qu'est-ce que vous dites à ses proches qui se réunissent autour de lui ce soir ?
Bah écoutez, je pense que les proches doivent prendre une décision en leur âme et conscience. Hein. Après, je pense qu'il faut prendre des dispositions et qu'il faut qu'il y ait un nettoyage de fait et mettre les bonnes personnes au bon endroit.
Vous, à titre personnel, vous êtes convaincu aujourd'hui que Didier Gayaguet a couvert votre entraîneur, Gilles Beyer, a couvert les agressions dont vous l'accusez ?
Écoutez, il était au courant des agissements de cette personne puisqu'il y a eu quand même des lettres de fait auprès de la fédération, des lettres écrites comme quoi cet homme était dangereux et devait s'éloigner des mineurs. Donc oui, il était au courant. Après, peut-être qu'il n'a pas pris la mesure des actes qui avaient été faits.
Hier, Brian Joubert, champion du monde aussi de patinage artistique, disait à mon micro qu'il ne faut pas faire porter le chapeau pour l'ensemble à Gayaguet. Qu'est-ce que vous dites de cela ?
Écoutez, je suis assez étonnée des réactions de Brian Joubert, que je connais quand même très bien pour l'avoir croisé à la fin de ma carrière. Lui démarrait sa carrière et moi, j'étais en fin de carrière, mais on a fait beaucoup de spectacles ensemble et Brian ne m'a même pas envoyé un message de soutien par rapport à mon témoignage. Donc c'est surtout là-dessus que je suis très étonnée qu'il ne puisse pas au moins m'envoyer un petit mot de soutien. Après, ce qu'il pense de son côté par rapport à la fédération, c'est à lui de voir ce qu'il pense et de se responsabiliser. responsabiliser aussi.
Merci beaucoup Sarah Abitbol de nous avoir répondu ce soir sur Europe 1. Merci à vous.
Merci.
Et j'ajoute, on l'a appris aujourd'hui, que vous serez reçu cette semaine par Brigitte Macron à l'Élysée.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Les poubelles qui s'amoncellent dans les rues de Paris et à Marseille aussi face à la grève. Le préfet réquisitionne du personnel, c'est à suivre dans votre édition de 18h.
Et puis le procès d'une incroyable escroquerie, l'homme se faisait passer pour le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.
2 heures d'info, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. 18h10 sur Europe 1, par la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Paris et Marseille croulent sous les ordures qui s'entassent dans les rues. C'est la conséquence d'une grève des éboueurs et agents des incinérateurs qui dure depuis maintenant 10 jours contre la réforme des retraites.
Au point que le préfet de police de Paris a ordonné de nouvelles réquisitions de personnel, car en Ile-de-France, la quasi-totalité des incinérateurs sont à l'arrêt. Hélène Terzian, vous êtes ce soir dans le centre de Paris, à deux pas des grands boulevards. Le paysage, ce sont des ordures qui s'amoncellent.
Effectivement, dans cette rue très passante, eh bien, il faut faire attention où l'on marche. Il faut presque zigzaguer entre les poubelles pleines à craquer. Ici, les bacs débordent tellement que des dizaines de sacs poubelles et de cartons sont posés à même le sol. Cette scène désole Abraham qui vit à deux pas d'ici.
C'est atroce. Je ne trouve pas les termes qui conviendraient à la situation. C'est honteux. Il y a des souris qui passent, il va y avoir des rats certainement la nuit. Et on a l'impression d'être au 15e ou au 16e siècle. Voir ça, c'est lamentable. Ce tas d'ordures qui n'est vraiment pas normal pour la ville de Paris. Il y a des odeurs, bien sûr, bien sûr. On a, entre guillemets, la chance qu'il pleuve et qu'il fasse un peu frais. Mais imaginez ça au mois de juin, juillet.
Et son sentiment de dégoût est exacerbé lorsqu'il pointe du doigt les murs de détritus qui vont bientôt cacher les devantures des nombreux commerces de bouche. Cela fait près d'une semaine que les poubelles n'ont pas été ramassées devant le restaurant de Yann.
Ça va commencer à devenir pénible, surtout pour les clients en terrasse. Ce week-end, samedi soir, les clients ont refusé de se mettre en terrasse car ils étaient gênés par les odeurs des poubelles qui stagnent depuis 5-6 jours maintenant. On stocke le maximum dans nos poubelles réfrigérées et on sort vraiment au minimum, et au bout d'un moment il va falloir que ça sorte. On a une capacité limitée.
Une situation qui a poussé la ville de Paris à réorganiser ses services de propreté pour assurer un minimum de collecte d'ordures dans les rues de la capitale.
Hélène Terzian dans le 2e arrondissement de Paris pour Europe 1.
Le Rassemblement national va devoir s'expliquer devant la justice, mais la justice russe, pour des dettes non payées, plus de 9 millions d'euros non remboursés.
Le Front national, à l'époque, en 2014, était allé contracter ce prêt en Russie. Aujourd'hui, une entreprise lance une procédure devant la cour d'arbitrage de Moscou. On y revient dans le journal de 19h. Et puis aux États-Unis, le fiasco du premier épisode de la primaire démocrate. Toujours pas de résultat ce soir. Dans l'Iowa, deux candidats, Pete Buttigieg et Bernie Sanders, revendiquent la victoire, mais aucun chiffre pour les départager, visiblement à cause d'un bug informatique.
Et on y reviendra avec les grandes voix et Didier François également à 19h20. Écoutez la coprésidente de la campagne de Bernie Sanders, Nina Turner.
C'est l'une des élections présidentielles les plus épiques de notre vie. Et avoir un échec aussi énorme, vraiment, ça retire la joie au vainqueur, quel qu'il soit. Je ne suis pas sûre que le Parti démocrate va s'en remettre. Et surtout, nous venons de donner au président Trump le meilleur argument du monde. C'est une humiliation pour le Parti démocrate. Il va falloir régler ça, mais dans l'immédiat. Ça va atténuer la victoire de celui qui a remporté le caucus. Et je pense que vraiment, c'est mon candidat Bernie Sanders qui va être annoncé gagnant.
Un témoignage au micro de notre envoyé spécial dans l'Iowa, Xavier Yvon. Et puis toujours aux États-Unis, les actionnaires du joaillier Tiffany annoncent à l'instant donner leur feu vert au rachat par LVMH, et cela pour 16 milliards de dollars.
On revient à Paris maintenant avec de nouveaux noms sur l'affiche des prochains Solidays.
Le festival organisé par Solidarité Sida et dont Europe 1 est partenaire. Vous avez déjà annoncé la venue d'Aya Nakamura, de M ou encore de Laurent Garnier. Et bien voici un autre gros nom qui s'ajoute, les Black Eyed Peas. Ça va mettre de l'ambiance.
Ouais,
hein,
on en réécoutera d'ailleurs un petit bout tout à l'heure, hein, vers 19h40, quand on sera ici avec Hugo Clément, notre invité. Et le rappeur Anderson .Paak sera aussi de la partie ouverture de la billetterie le 6 février.
Hein,
c'est ça. Les métronomies.
Métronomie, les Britanniques. Voilà, les Solidays, c'est du 19 au 21 juin à Paris. Et c'est avec Europe 1. Donc.
Merci beaucoup, Sébastien Krebs. 18h30, vous êtes de retour avec de nouvelles infos. Et Anissa, pour la météo, avec une petite accalmie.
Oui, demain, effectivement, Nathalie, le temps redevient beaucoup plus calme. Avec attention, toujours sur les Hauts-de-France, la région parisienne et la région Rhône-Alpes. Des petites averses le matin, rien de très inquiétant. Attention aussi dans l'après-midi, des brumes et des brouillards qui vont rester assez actifs sur une partie de la France et notamment le nord et la région parisienne. Il neige demain sur le massif central, les Vosges, le Jura et les Alpes, des flocons qui tomberont à partir de 700 mètres d'altitude. Partout ailleurs, écoutez bien cette bonne nouvelle, la journée va commencer sous des nuages bas et ensuite ils vont se dissiper pour laisser place à un beau soleil. Ça sera donc une journée au sec et ensoleillée. Attention tout de même au vent qui souffle toujours très fort sur le Languedoc-Roussillon, la Côte d'Azur et la Corse avec des rafales jusqu'à 110 km/h. La Corse du Sud est toujours en vigilance orange, tout comme les Ardennes, la Marne et la Meuse. Attention aux crues et aux inondations. Les températures 7 à 17 demain après-midi.
Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit avec Nathalie Lévy et votre invitée Nathalie dans un instant. Et oui, parce qu'aujourd'hui c'est la 20e journée mondiale de lutte contre le cancer. À cette occasion, on zoome ce soir sur l'entourage des malades. Comment accompagner un proche, son conjoint dans la maladie, continuer à vivre malgré tout. Pour en parler, je reçois dans un instant le cancérologue Rémi Salmon. Il publie Le cancer, ça se vit à deux, à paraître le 13 février aux éditions Presse du Châtelet.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy, à l'occasion de la 20e journée mondiale de lutte contre le cancer, vous recevez ce soir le docteur Rémi Salmon. Il est cancérologue et il publie Le cancer, ça se vit à deux, à paraître le 13 février prochain aux éditions Presse du Châtelet.
Bonsoir docteur Rémi Salmon.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation dans ce studio. Docteur, le président de la Ligue contre le cancer, Axel Kahn, l'a dit ce matin, 750 000 bébés naissent chaque année en France et chaque année 400 000 personnes sont touchées par le cancer. Ce qui veut dire qu'un enfant sur deux qui naît aujourd'hui sera touché par cette maladie. Fatalement, quasiment chaque famille sera touchée et c'est aux membres de cette famille qu'on a choisi de s'intéresser ce soir grâce à vous. Cet entourage auquel vous vous adressez dans votre livre, cet entourage, quel est son rôle ?
D'abord, l'entourage, il aimerait bien ne pas avoir de rôle. Et en fait, il se trouve avoir des rôles imposés. Sa compagne, sa femme, tu vois, un peu difficile aujourd'hui de définir qu'est-ce qu'est exactement un couple, mais est touché par une maladie qui fait peur, qui porte en soi une notion de risque mortel. Ça. Mauvaise presse, associée à des synonymes de souffrance, de douleur, de mutilation. Et tout d'un coup, alors que tout se passait très bien, ou plus ou moins bien, sa femme rentre un soir à la maison et annonce « ben voilà, j'ai un cancer du sein, j'ai le cancer ».
Alors, dans votre livre, docteur, vous dites, lorsqu'un cancer est diagnostiqué, effectivement, tout le quotidien du foyer, du couple est bouleversé. Mm-hmm. Vous vous mettez même dans votre livre, dans la peau du compagnon, du partenaire. Dès le moment de l'annonce, ce partenaire assommé, lui aussi, qui, vous le dites, change de monde, littéralement.
Oui, on change de monde et que avant tout allait bien. Bon, les crises, les enfants, les rougeoles, la belle-mère, en fait, la vie quotidienne. Et tout d'un coup, tombe quelque chose, et pour le compagnon, sa place à l'intérieur de la maladie va être difficile à trouver. Pour la femme, c'est, j'allais dire, relativement simple, parce qu'on va lui proposer un traitement, des séquences thérapeutiques, on va lui expliquer plus ou moins bien, elle va comprendre plus ou moins bien, tout va toujours très vite. Mais le mari, enfin le compagnon, personne ne fait jamais rien pour lui. Et quand par hasard il pose des questions, c'est vraiment le casse-pied, quoi.
C'est ça. Et puis encore faut-il comprendre. Parce que vous le dites, docteur, il y a les phases du traitement, l'imagerie, les techniques, la chirurgie du cancer du sein qui peut dérouter le partenaire et qui peut le perdre parce que le langage médical, le jargon, c'est même vous qui le dites, n'est pas compréhensible par tous.
Alors, c'est un problème général, la communication. Il faut d'abord avoir envie de communiquer. Tous les médecins n'ont pas forcément la même envie de communiquer. Et ensuite, il faut réussir à trouver chez son patient et chez son compagnon les mots qui font sens. Maintenant, tout le monde va sur Internet. Oui. Mais quand vous avez un cancer et que vous allez sur Internet, au bout de 10 minutes, vous ne comprenez absolument plus rien à ce qui va vous arriver. Et donc, il faut qu'on cherche, il faut qu'on trouve des mots. Et comme vous savez, la communication, elle est liée à une expérience vécue ensemble. Il y a une deuxième chose qui est le fait que les patients et leurs compagnons, les patientes et leurs compagnons, ne peuvent pas enregistrer beaucoup de choses. Et quand on dit à une femme, vous avez un cancer, et puis que vous lui expliquez son traitement, elle fait oui, oui, et maintenant il y a ce que l'on appelle les consultations d'infirmières, où on reformalise et on s'aperçoit que la plupart du temps, les femmes n'ont pas ou peu compris une grande partie de la proposition thérapeutique. Et donc le compagnon là, il a encore moins la possibilité d'en discuter, essayer de comprendre pour pouvoir l'aider.
Bien entendu.
Parce que pour pouvoir aider, il faut comprendre, il faut savoir quoi faire.
Alors bien sûr, les difficultés, les divers problèmes dans la vie familiale, dans la vie amicale de la femme, dans la vie sociale de la femme, mais qui peuvent impacter aussi la vie du partenaire, vous le dites. Vous dites aussi qu'il faut véritablement se méfier de l'entourage. Pourquoi cela ?
Ah ben parce que c'est lourd un entourage. Ah là là, ma pauvre.
Plus lourd que
oh là là, mais tu utile. Sais, je connais Madame Machin qui était la sœur de Truc, elle avait exactement la même chose que toi. 6 mois plus tard, elle était morte. Alors, vous êtes là en train d'essayer de comprendre, etc. Les gens sont lourds, ils ne savent pas. C'est une maladie compliquée. On peut très bien traiter des patientes sans chimiothérapie. Et puis, comment ? Ils t'ont dit qu'il ne fallait pas avoir de chimiothérapie, mais le professeur Machin a dit qu'il fallait avoir... Les conseilleurs ne sont pas les bons payeurs. C'est un vieux...
Il y a deux aspects intéressants aussi. Tout l'est dans votre livre, mais deux aspects que je repérais, notamment sur l'apparence. Bien entendu, on parle du cancer du sein, puisque c'est votre spécialité. Ce qui peut dérouter le compagnon, parfois, cette question de symétrie pour la femme dans son sein, qui peut paraître, je vous cite, futile en apparence pour le compagnon, pour le partenaire. Futile a priori ?
Ah non, ce n'est pas du tout futile l'apparence. Et en tout cas, l'établissement auquel j'appartiens a toujours privilégié justement une obligation de résultat esthétique, de telle façon que c'est déjà suffisamment contrariant d'avoir un cancer, mais si en plus on se retrouve asymétrique ou avec un sein mal foutu par rapport à l'autre, c'est horrible. C'est pour ça que des techniques spéciales qui sont un peu développés dans le livre, qui s'appellent les techniques d'oncoplastie, ont été développées il y a très longtemps à Curie.
Et c'est pour ça que vous interpellez d'ailleurs l'homme de ce livre, le compagnon de Martine, pour lui dire non, c'est pas futile tout ça. Le physique, c'est essentiel. Il y a l'aspect physique toujours lié aux cheveux, bien entendu, la chimiothérapie, les conséquences que cela peut avoir. Ce mot chimiothérapie qui souvent, à l'oreille du partenaire, est extrêmement mal vécu, extrêmement angoissant. Et vous dites que sur le plan du financement, il faut y aller. Il ne faut pas lésiner, en quelque sorte.
Oui, alors, premièrement, la chimiothérapie, ça reste encore beaucoup dans l'esprit du public comme un synonyme de gravité. Si j'ai de la chimiothérapie, c'est plus grave que si j'en ai pas. Bon, on peut en rediscuter, mais après, l'apparence, c'est quelque chose de très important. Et c'est vrai que la sécurité sociale, comme les prothèses capillaires, est un dispositif temporaire, puisqu'une fois que les chimiothérapies sont terminées, les cheveux repoussent. Comme c'est un dispositif temporaire, il est mal remboursé. Or, les perruques, enfin les prothèses capillaires qui sont remboursées par la Sécurité sociale,
elles valent rien. Non, c'est ce que vous me dites.
C'est pas beau. Donc, un investissement permet de faire illusion.
Et c'est là où vous invitez effectivement le partenaire à mettre ce qu'il faut pour rendre en quelque sorte aussi sa dignité à la femme touchée par le cancer du sein. Il y a bien entendu le couple, il y a la famille dans son ensemble, les enfants. Comment en parler aux enfants ?
Les enfants, il faut en parler d'abord. C'est un conseil que je donne toujours au couple. C'est parlez-en à vos enfants vite, parce que les enfants, de toute façon, ils savent tout. Et ils comprennent tout. Et plus on attend, plus ils s'inquiètent. Donc il vaut mieux passer quelques minutes plutôt que de se retrouver un jour dans la cuisine avec un gamin qui passe et qui vous dit « Maman, tu vas mourir ». Bon, donc si on leur a expliqué que pendant un certain temps, leur mère va être traitée, que, et ça, le couple a un double rôle à jouer, si on leur a expliqué, il ne faut pas leur expliquer pendant des heures et des heures, il faut que ça aille vite, que ça soit précis et qu'on va avoir besoin d'eux de participer.
Deux questions rapides, docteur Rémy Salmon, même si on pourrait évidemment vous garder ici toute la soirée. Il y a beaucoup de couples qui trépassent quand la femme est victime d'un cancer du sein.
le chiffre qui traîne, c'est 50%.
50%, un couple sur deux ne survit pas à cette maladie.
Alors, il y a des couples qui, de toute façon, n'allaient pas survivre.
Bien entendu, bon. Et vous le racontez.
Et puis, il faut aussi se souvenir que ça dure. C'est-à-dire qu'on a un cancer, enfin, la femme a un cancer, et le compagnon va être là, et puis, un an, deux ans, trois ans, ça dure, et ça reste à l'intérieur du couple. Et si on n'a pas réussi à en parler, si on n'a pas réussi à communiquer, si on ne comprend pas très bien comment ça se passe, ça aggrave les tensions.
Bien sûr, parce que bien entendu, et vous le racontez dans votre livre, il y a aussi l'après, la guérison, mais pas toujours, parfois la récidive. Un mot juste, le cancer du sein, c'est le plus fréquent chez la femme aujourd'hui ?
Oui.
Les facteurs de risque du cancer du sein, en deux mots ?
En règle générale, en réponse, c'est une excellente question et je vous remercie de me l'avoir posée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, en fait.
On ne sait pas. Merci beaucoup, docteur Rémi Salmon. On sait, grâce à vous, quelques éléments, en tout cas, pour affronter à deux, comme des guerriers, c'est aussi ce que vous dites, le cancer, ça se vit à deux. C'est votre livre aux éditions Presse du Châtelet. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy.
Le débat des grandes voix. Ils vont s'installer dans ce studio au programme ce soir. On file vers les États-Unis entre les primaires du Parti démocrate et le discours sur l'état de l'Union par Donald Trump. Et puis la gauche française. On regarde, tiens, si elle est en train de se réveiller.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Le rappel des titres de Sébastien Krebs.
La France change ses consignes concernant la Chine. Pour éviter le risque de contamination au coronavirus, le ministère des Affaires étrangères recommande de reporter tout déplacement vers la Chine, demande aux ressortissants français présents dans le pays de s'en éloigner, sauf raison essentielle. La question du congé de deuil parental fait tanguer la majorité. Ambiance houleuse aujourd'hui entre les députés LREM et le Premier ministre Édouard Philippe. C'était lors d'une réunion à huis clos. Le gouvernement fait machine arrière et annonce une concertation sur cette question du deuil parental. Le Sénat, dominé par la droite, a adopté aujourd'hui la loi bioéthique avec l'autorisation de la PMA à toutes les femmes, mais dans une version modifiée en réservant son remboursement par la Sécurité sociale aux seuls cas médicaux. Christophe Castaner revoit sa copie sur le nuançage politique au municipal. La circulaire retoquée par le Conseil d'État a été réécrite. Seuil abaissé, les étiquettes politiques ne disparaîtront que pour les communes de moins de 3500 habitants. Les époux Balkany, absents tous les deux de leur salle d'audience aujourd'hui, le procès en appel à députés pour blanchiment de fraude fiscale. Et puis Sarah Abitbol sur Europe 1 ce soir se dit soulagée. L'ancienne patineuse réagissait à 18h à l'ouverture d'une enquête judiciaire pour viol par le parquet de Paris après ses accusations. Réunion de crise ce soir à la Fédération des sports de glace autour de son président Didier Gayaguet. On y revient dans le journal de 19h.
Merci Sébastien, on vous attend sur évidemment dans ce studio. Des vigilances ce soir du côté du ciel.
Oui, nous avons trois départements vigilance orange dans le nord-est pour crues inondations et la Corse du sud pour vent violent. Alors la journée de demain, elle sera calme avec du soleil pour presque toute la France et du vent toujours violent dans le sud de la France. 7 à 17 degrés pour demain après-midi, 9 à Paris.
Europe 1.
À la suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix et autour de vous ce soir, Nathalie, Marie-Ève Malouine, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio. Que se passe-t-il à gauche ? Il y a de l'agitation, semble-t-il. On fait du bruit. Est-ce que c'est sur du long terme ? Est-ce que c'est un feu de paille ? En tout cas, on va regarder de très près parce que typiquement, ce soir, Najat Vallaud-Belkacem, l'ancienne ministre, est à Grenoble, demain mercredi à Lyon et début mars à Châteauroux. Elle est de retour déjà sur les routes de l'Hexagone. Charles Villeneuve, je vois le petit sourire en coin. Ça veut dire ?
Non, ça veut dire très simplement, aussi bien d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, que Najat Vallaud-Belkacem ont dû lire d'ailleurs l'étude de comment ça s'appelle déjà cette étude-là, je ne sais plus, sur la société française. Et donc les deux sont prêts à panser les blessures et les fractures du Parti socialiste. Ils ont entendu le cri du PS « Que pouvez-vous faire pour moi ?» Et donc Najat Vallaud-Belkacem s'est précipitée. Là, alors qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle, je ne sais pas, elle a 2 ans de purgatoire, elle est revenue. Est-ce qu'elle pourra de toute façon remettre en selle le Parti socialiste ? Je ne sais pas, parce que j'ai vu la réaction notamment du premier secrétaire du Parti Socialiste.
Olivier Faure.
Oui, qui a été quand même, je trouve, presque à la limite un peu insultant pour Le Drian.
En tout cas, pour le moins ironique, voilà.
On dit que la CGT est archaïque. Je trouve que c'est une réponse archaïque aussi du Parti Socialiste. Et puis Le Drian, lui, c'est pas la même chose. Il essaie de recomposer un pôle de gauche.
On va distinguer les deux, si vous le voulez bien. Mais Gérard Carrérou, nous voulons incarner une gauche moins radicale dans le verbe, mais plus efficace dans l'action. Sur le papier, ça fait sens de la part de Najot Vallaud-Belkacem.
Ce qui fait sens, c'est que la gauche continue d'exister un peu. Bon, même si le macronisme s'est installé, la gauche comme la droite d'ailleurs, on pourrait dire la même chose pour la droite, il y a toujours une pensée, un électorat de gauche. Alors la pensée, il faudrait peut-être la remettre un peu au goût du jour. Mais en tout cas, il y a des gens qui se réclament de la gauche comme il y a des gens qui se réclament de la droite malgré l'installation du macronisme. Donc il est normal qu'à 2 ans de l'élection majeure, la présidentielle, à 5 semaines des élections municipales, les socialistes se réveillent. Alors il y a ceux qui ne se sont jamais endormis, d'ailleurs, je pense à François Hollande qui continue à frétiller, à écrire ici et là.
Envoyer des cartes postales.
Il y a maintenant Ségolène Royal qui s'était installée, elle, carrément
dans un poste
pré-présidentiel. Ouais. Et puis voilà, donc, des nouveaux efforts assez intéressants. Ouais. Effectivement, celui de Le Drian, il est plus idéologique. Mmh. Le Drian, il voudrait, lui, que se crée une sorte de sous-famille.
C'est ça, une aile gauche de la majorité. Hein, c'est comme ça que c'est
vendu. De la majorité, qui fasse un petit peu le contrepoids à la droite de la majorité, celle des ministres Darmanin et autres ministres venus de la droite. Alors c'est une démarche intéressante, mais je pense qu'il n'a pas d'ambition personnelle. Monsieur Le Drian, c'est un excellent ministre. Il l'a été aux armées, il l'est aux affaires étrangères. Il est à peu près reconnu par tout le monde. Enfin, c'est un bon ministre.
Oui,
mais il n'a pas d'ambition d'être un jour président, en tout cas. Par contre, alors nous avons là la dernière en date, qui est donc Najot Vallaud-Belkacem. Moi, je considère, mais je ne suis pas le seul, je crois, que c'est probablement l'un des plus mauvais ministres de l'Éducation nationale qu'on ait connu sous la Ve République.
Ça s'est fait.
Je vois bien, d'ailleurs, je dirais simplement, je vois comment son successeur, M. Blanquer, depuis 2 ans, passe en gros son temps à colmater les brèches ou à revenir sur un certain nombre de décisions malencontreuses qu'elle avait prises. Vous me direz que ça n'empêche pas d'être un mauvais ministre, de faire de la politique. Ouais. Et je pense qu'elle a, après tout, le droit et le talent de vouloir revenir dans la zone politique.
Voilà, alors le talent, on verra, le droit en tout cas. Et elle est très demandée, de toute évidence, sur le terrain. Marie-Ève Malouine, il y a plusieurs choses. Il y a Najot Vallaud-Belkacem, il y a Le Drian, et puis il y a la réaction quand même d'Olivier Faure. Qu'est-ce qu'elle veut dire, la réaction d'Olivier Faure, quand il dit il évoque un club d'alcooliques anonyme qui a trahi la gauche pour condamner, clairement, cette création voulue par Le Drian et Dussopt.
Oui, je crois que dans l'image d'Olivier Faure, ce qu'il voulait dire, il parle d'un club des alcooliques anonymes qui se réveille le lendemain matin un peu avec la gueule de bois et qui se dit « mais en fait, on a trahi la gauche ». Donc il y a sa part de ressentiment et puis qui traduit aussi peut-être un peu la déception de l'aile gauche de la majorité qui n'arrive pas à imprimer suffisamment, mais qui imprime quand même un peu plus que le Parti Socialiste, il faut bien reconnaître. Donc il y a un peu aussi d'amertume de la part d'Olivier Faure qui a du mal à s'en sortir et à faire exister le Parti Socialiste. Je crois que le problème des socialistes, et comme beaucoup de gens à gauche, c'est qu'ils théorisent extrêmement les choses et puis une fois arrivés au pouvoir, ils ont du mal à s'y mettre. Et je crois que l'avenir de la gauche viendra plutôt de ces élus locaux qui sont à l'œuvre, qui sont les mains dans le cambouis, plutôt que des gens comme Najot Vallaud-Belkacem qui est parti, qui a laissé le parti se débrouiller et maintenant qui revient. C'est une femme, elle est jeune, mais elle a un profil, elle a une théorie. Mais au niveau de la pratique, il manque quand même beaucoup de choses.
Alors justement, l'avenir de la gauche à 2 ans de cette élection présidentielle, qu'est-ce que ça peut être? Comment on peut s'organiser, en tout cas pour exister? On s'en parle juste après.
Europe 1, il est 18h40. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix avec ce soir Marie-Ève Malouine, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou autour de vous, Nathalie Lévy.
Et nos auditeurs, bonsoir Kevin.
Bonsoir Nathalie.
Qui nous appelle de Nantes, on vous reconnaît, bonsoir à vous, bienvenue. Alors on s'est parlé de Najot Vallaud-Belkacem, mais on s'est parlé aussi de cette gauche autour du ministre, celui des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, Olivier Dussopt, secrétaire d'État de l'Action et des Comptes Publics, qui ont lancé samedi Territoire de Progrès, ce mouvement à la gauche de la majorité. Parce qu'il en faut du social dans cette majorité, non?
Oui, c'est vrai, mais après, moi, je pense que de toute façon, le macronisme, c'est Macron. Donc, pour moi, en fait, vu de l'extérieur, en modeste observateur, la seule qui peut faire gauchiser un petit peu Emmanuel Macron, c'est Brigitte, j'ai l'impression. Donc, j'ai du mal à croire qu'en fait, à l'intérieur de la majorité, que M. Le Drian, M. Dussopt, ait un quelconque poids sur l'orientation politique d'Emmanuel Macron.
Ah oui, c'est intéressant. Maintenant, pour vous, c'est Brigitte et Brigitte elle seule.
La gauche du macronisme, c'est Brigitte. C'est un peu ce que je pense, c'est pas intéressant comme idée. Oui.
Non, mais sur l'idée générale de Kevin, je suis assez d'accord, en ce sens où quand Matignon et les finances, Bercy, sont tenus par deux ministres, Premier ministre et ministre des Finances venus de la droite, et compte tenu que le socle à l'heure actuelle des derniers électeurs, en tout cas du président, c'est plutôt à droite, la tâche de Jean-Yves Le Drian sera difficile de constituer un pôle à gauche.
Ouais, mais en même temps, il y a un groupe à l'Assemblée nationale et ça fait des gens qui peuvent se faire entendre. Oui, On en a connu d'autres dans d'autres majorités précédemment.
Oui, mais ce n'est pas le problème de Jean-Yves Le Drian à l'écouter, à discuter avec lui. Son problème, c'est l'électorat.
Oui,
c'est ça. Pas tellement les élus.
Voilà. Oui, mais les élus, il va chercher l'électorat par rapport aux élus.
Il faut voir Jean-Yves Le Drian, c'est ça dont il se plaint d'ailleurs.
C'est l'homme fort de la gauche en Bretagne.
Juste un mot de Kevin. Parce que Kevin est toujours avec nous là depuis Nantes. Vous entendez hein, les grandes voix, parce que votre sortie a fait réfléchir et fait parler, comme on dit. La gauche, c'est aussi la famille politique qui a constitué les deux tiers de l'électorat de Macron. Hein.
Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il y a une partie de cette gauche qui s'est ralliée par la personnalité d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai un peu l'impression que ce que fait Jean-Yves Le Drian, c'est un peu poser des billes au cas où le macronisme explose, parce que Macron est un petit peu fragilisé. On sent bien qu'à droite, ça prépare déjà un petit peu ses cartouches avec Darmanin et Philippe qui vont aller se relégitimer par le suffrage universel. Donc je pense qu'on assure ses arrières, on va dire, dans la Macronie. Si Macron va bien, et ben on ira avec lui, on continuera avec lui pour 5 ans plus. Et puis si Macron va pas bien et s'il est pas en position est au deuxième tour, on joue peut-être des cartes personnelles à gauche comme à droite de la Macronie.
Ok, Kevin. On vous invite dans les grandes voies à discuter.
Merci à vous, Kevin, volontiers, Gérard. Parce que je pense que je reprendrai l'idée de Marie-Ève Malouine. Elle disait fort justement que le Parti Socialiste, c'est d'abord un parti d'élus et de grands élus. Et Le Drian en est une parfaite illustration. Ça a été un maire et ça a été surtout un président du conseil régional de sa Bretagne natale et chérie. Donc c'est à travers éventuellement, et on va le voir, et son timing est bien puisque les municipales sont dans quelques semaines. Et on va voir si un certain nombre de maires de gauche, parce que autant les socialistes, on les voit quasiment plus au Parlement, on les entend très peu au Parlement, ils existent dans le pays, ils détiennent encore un certain nombre de grandes municipalités, ça commence déjà avec Martine Aubry et quelques autres, donc des grandes villes sont dirigées par les socialistes, et on va voir si de cette masse d'élus qui vont probablement beaucoup d'entre eux, parce que ce sont plutôt des bons gestionnaires de ville, beaucoup d'entre eux vont être réélus. Et on peut peut-être, c'est là que peut-être Le Drian peut trouver une sorte de vivier, d'une sorte de renaissance d'une social-démocratie à l'intérieur ou à l'extérieur de la.
L'idée là de base de Le Drian, c'est pas seulement de cultiver déjà ce qui a été labouré, si tu veux, c'est d'étendre justement les champs de labour de recrutement, de remobilisation de l'électorat de gauche.
Mais ça passe par le terrain, bien sûr.
Mais comment on en est là? Parce que les thématiques sociales, pardonnez-moi, mais elles sont un marqueur du PS, du Parti Socialiste, a priori, hein, quand même, ouais. Ça date, c'est pas d'hier. Comment se fait-il qu'elles n'émergent pas dans cette campagne, qu'il y a le concours Lépine de l'écologie, ça oui, mais comment se fait-il que, alors que le social est mis de côté par les macronistes, pourquoi ça ne fonctionne pas avec
parce que le Parti Socialiste a perdu sa clientèle ouvrière, ça fait déjà longtemps. Il a perdu les professions. Au fond, il était devenu un parti dont les militants étaient des intellectuels, il reste des intellectuels, beaucoup de professeurs, d'instituteurs, de gens comme ça. Mais il n'y a plus le contact avec les masses, comme on dit, les masses sociales, celles qui ont été en mouvement à travers les gilets jaunes et à travers les grèves récentes, le Parti Socialiste pratiquement est absent.
Je vous rejoindrai, sauf que quand vous dites Parti Socialiste, c'est au niveau national, mais au niveau local, ce lien sur le social qui se conjugue pour les maires sortant avec l'écologie existe toujours.
Mais en ce qui concerne le flux présidentiel, on l'a vu se partager ce flux justement, un peu sur, même pas mal sur le présidentiel, sur la France Insoumise et au Rassemblement National aussi. Notamment aux européennes.
On s'arrête là, on se retrouve dans un instant. Les grandes voix, on va filer outre-Atlantique parce que c'est vraiment chaotique ce qui se passe pour les débuts de cette primaire démocrate.
Europe 1, il est 18h48. Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h Nathalie Lévy, le débat des grandes voix. Et ce soir, autour de vous, Marie-Ève Malouine, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Et oui, on traverse l'Atlantique avec le premier scrutin des primaires démocrates dans l'Iowa qui a viré au fiasco, faute de résultats officiels, poussant le sénateur Bernie Sanders à se revendiquer pour l'instant en tête devant les autres, devant les 10 dans la course pour désigner le futur adversaire de Donald Trump. Alors Gérard Carrérou, je sais que vous avez des connexions aux États-Unis. Est-ce que vous avez des résultats à ce stade?
Écoutez, non, ça serait... Non, je crois, mais...
Bon. Ça ne saurait tarder,
j'ai passé une partie de la journée à écouter ce que j'ai pu des télés américaines qu'on capte ici en Europe, on en capte un certain nombre. Il y a encore une heure, effectivement. Bon, le seul truc qu'on peut dire, c'est que plusieurs commentateurs ont fait valoir que Bernie Sanders était probablement en tête.
Voilà.
Bon, mais ce que je dirais plus génériquement, généralement, bon, alors le fiasco, c'est d'abord le plus grand fiasco qu'on ait jamais vu dans les primaires américaines.
D'accord.
Bon, pour des erreurs de codage ou je ne sais quoi, ou d'ordinateur, peu importe. Mais politiquement, ça devient un événement.
C'est
un événement qui devient un événement pro-Trump.
Mais c'est ça, c'est jubilatoire. Là,
vous l'avez entendu ce matin, le premier à son réveil, Trump entend ça et dit « Mais comment voulez-vous que ces gens qui ne sont pas foutus de tenir leur primaire puissent redresser le pays ?» Bon, du coup, c'est un premier élément pour lui. Deuxième élément pour lui, il va être acquitté. Il sera acquitté demain par un vote du Sénat de son impeachment, il va célébrer son acquittement. Et troisièmement, il prononce, entre-temps, il aura prononcé ce soir un discours sur l'état de l'Union. Et alors, je reviens aux primaires dont on n'a pas le résultat. Si c'est effectivement Bernie Sanders qui est numéro un, et il semblerait aussi que ce soit peut-être quelqu'un de la gauche du parti qui soit numéro deux, dans ce cas-là, Trump aura encore une chance supplémentaire.
Exactement.
On dira, comment voulez-vous que Trump soit battu par des démocrates qui incarnent la gauche minoritaire du parti, enfin minoritaire, elle est minoritaire dans le pays, elle est peut-être en voie de devenir majoritaire au Parti démocrate, mais elle est minoritaire en Amérique.
Alors voilà, ce fiasco, ce système complexe des caucus, de toute façon, cet acquittement per impeachment, c'est un boulevard là qui est offert à Donald Trump.
Bah, c'est vrai qu'il a un calendrier qui lui est plutôt favorable, puisque tout arrive en même temps et donc ça augmente l'effet de désastre du côté des démocrates. C'est vrai que l'impeachment aboutisse à un acquittement, on n'en doutait pas. Mais la façon dont ça se fait, ça montre quand même une certaine impuissance, un truc mal préparé par les démocrates. Et là-dessus, quand ils ne sont pas capables de compter des voix, c'est vrai que quand ça ne veut pas, ça ne veut pas pour eux. Mais en même temps, ça vient de loin, parce que je pense aussi que quand après Obama, on reconduit Hillary Clinton comme candidate sans mesurer que le pays l'a trop vue, qu'elle incarne un passé... On voit bien que c'est un parti qui a du mal à vraiment se ressourcer et ça ne date pas d'aujourd'hui.
Charles Villeneuve, c'est un peu pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
Mais surtout quand on regarde bien la Constitution américaine, le droit au pied de la lettre, on s'aperçoit qu'en réalité, il n'est pas possible de le mettre en accusation pour violation d'une loi fédérale. Parce que le droit et le chapitre, la clause justement... qui permet une destitution d'un président des États-Unis.
Là, vous zoomez sur l'impeachment,
oui. Si vous voulez, je pense que politiquement, tout a été dit par Gérard et par notre camarade. Les élus démocrates se sont fait plaisir parce que c'est vrai qu'ils se sont surtout basés sur les turpitudes du président des États-Unis, qui sont réelles, c'est vrai.
Non, mais ils ont persisté dans un processus
mais
très
sauf
lourd.
Sauf que dit le droit. Le droit dit il ne peut être convaincu que de trahison, de corruption ou autre crime et délit majeur. Et en l'espèce, Trump n'a violé aucune loi fédérale. Donc, on savait, de toute façon, inéluctablement, j'en ai parlé souvent avec Gérard qui suit très attentivement la politique américaine, parce que son fils et sa fille sont là-bas. Ce sont des journalistes.
Oui,
ce sont des journalistes, eux aussi, au Wall Street Journal, etc. Donc, évidemment, il est branché directement. Il y va tous les étés. Et donc, pour moi, l'expert, si vous voulez, de la politique américaine, c'est Gérard Carrérou.
C'est pour ça que je lui demandais les résultats qu'il nous fournira, évidemment, incessamment.
J'aurais pu faire le malin, mais ce n'est pas mon genre.
Bon, merci en tout cas à tous. Et vous l'avez dit, bien sûr, Charles, le Sénat qui devrait acquitter Trump sans grand suspense. On reviendra très longuement là-dessus avec vous tous. Merci beaucoup, les grandes voix.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Le journal de 19h signé Sébastien Krebs à la une ce soir. Le démarchage téléphonique intrusif des associations de consommateurs tape du poing sur la table. Vous allez les entendre sur Europe 1.
Vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h. jusqu'à 20h sur Europe 1. Vous écoutez Nathalie Lévy, le programme de la prochaine heure, Nathalie.
19h10, prenez note, la réforme des retraites examinée à l'Assemblée, 19 000 amendements déposés par la France Insoumise. Aurélie Herbemont reçoit le député insoumis du Nord, Hugo Bernalicis. Il s'expliquera. 19h20, on a toujours un œil sur demain dans ce rendez-vous le soir sur Europe 1. 19h30, avec moi en studio, un journaliste engagé pour le climat, Hugo Clément. Il scrute pour France 2 les effets du changement climatique dans son émission Sur le front. Il écrit aussi, il sera avec nous jusqu'à 20h. Avec Mathieu Charrier aussi, il passe une tête. Les sorties ciné, c'est avec lui chaque soir. Chaque mardi.
Et vous pouvez bien sûr réagir en direct, n'hésitez pas. Ça se passe au 39-21, c'est le standard d'Europe 1. Vos réactions en direct, vos questions, si vous avez des questions à poser à Hugo Clément et sa nouvelle vie, n'hésitez pas. Et puis sur Twitter, on lit vos messages avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Il faut changer le règne de la terreur. Que ce soit les opérateurs qui puissent bloquer ces appels de manière préventive et donc protéger nos concitoyens.
Mieux lutter contre le démarchage téléphonique intempestif. Une proposition de loi va être déposée au printemps pour l'encadrer.
Le Rassemblement national poursuivi par la justice russe. Le mouvement de Marine Le Pen n'a pas remboursé un prêt de plus de 9 millions d'euros.
Les heures de Didier Gayaguet à la tête de la Fédération française des sports de glace sont-elles comptées ? Réunion de crise ce soir alors que le parquet de Paris enquête désormais sur les accusations de viol. Et puis le procès d'une incroyable escroquerie. L'homme se faisait passer pour le ministre des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian.
Oui, la tendance météo, signé Anissa.
Encore beaucoup de vent, demain dans le sud, des rafales jusqu'à 100-110 km/h sur le Cap Corse. Dans l'ensemble, demain sera une journée très agréable avec pas mal de soleil. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Cela nous est tous déjà arrivé, et bien trop souvent. Le téléphone qui sonne pour nous vendre un nouvel abonnement téléphonique ou toutes sortes de choses. Le démarchage à répétition peut-il être plus encadré ? 2 Français sur 3 disent avoir déjà eu un problème avec leur opérateur. Et dans 1 cas sur 5, c'est à cause de ces appels intempestifs. Bonsoir François Geffrier.
Bonsoir.
Pour lutter contre les abus, une proposition de loi va donc être adoptée au printemps.
Oui, parce que c'est insupportable. Parfois, une centaine d'appels dans une journée, selon les témoignages que recueille l'ARCEP, l'autorité qui surveille les opérateurs télécoms. Souvent, ce sont des personnes âgées qui en sont victimes. Et ces appels ne sont pas juste désagréables. 4 sur 10 sont frauduleux, c'est ce que rappelle le président de l'ARCEP, Sébastien Soriano.
Quand on prend un abonnement téléphonique, c'est un service pour vous. Ce n'est pas un facteur de persécution. Ce n'est pas quelque chose qui va permettre à tout un tas d'intrus ou de personnes malveillantes de vous passer des appels, de vous laisser des messages où vous allez rappeler pour des numéros très coûteux, le plus souvent pour des arnaques. Il faut changer le règne de la terreur. Que ce soit les opérateurs qui puissent bloquer ces appels de manière préventive et donc protéger nos concitoyens.
Donc dans cette loi, le blocage automatique des numéros frauduleux, l'interdiction totale pour un centre d'appel situé à l'étranger, vous savez, de tricher en vous faisant croire qu'il vous appelle de France, l'interdiction du démarchage téléphonique le dimanche, les jours fériés, le soir et même à l'heure du déjeuner, l'interdiction du démarchage dans un secteur aussi qui pose problème aujourd'hui, c'est la rénovation énergétique, pardon, quand on vous propose d'isoler vos combles pour pas cher. Et puis, une multiplication des amendes par 25. Désormais, une entreprise prise en faute risquera 375 000 euros d'amende. Ça commence à être dissuasif. Il va juste falloir pas tarder. Cette proposition est dans les cartons depuis 2018. Elle est censée être enfin adoptée définitivement fin mai au plus tard.
Les précisions de François Geffrier du service économie d'Europe 1.
L'actualité ce soir, c'est aussi le coup de gueule du patron de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui accuse les pays riches de ne pas partager suffisamment leurs informations sur le coronavirus.
Certains sont très en retard, dit-il, et ne transmettent pas suffisamment de détails sur les cas détectés. Ce n'est pas une pandémie, dit tout de même l'OMS, c'est-à-dire pas une épidémie mondialisée, même si les consignes de prudence se multiplient. Londres qui demande à tous ses ressortissants de quitter la Chine s'ils le peuvent. La France recommande, elle, de reporter tout voyage sauf raison essentielle.
Et la politique maintenant, ça a tangué, pour le moins aujourd'hui, entre les députés de la majorité et le Premier ministre. Réunion houleuse à huis clos sur la question, une fois encore, du congé de deuil parental.
Congé que le gouvernement a refusé d'étendre, ce qui a mis le feu à la majorité. J'en assume la responsabilité, a dit le Premier ministre face aux députés. Le gouvernement rétropédale et va mener une concertation.
Pendant ce temps, le Rassemblement national, lui, fait ses comptes, fait ses totos. Le mouvement de Marine Le Pen est convoqué à Moscou à cause d'un prêt non remboursé.
Plus de 9 millions de dettes. Bonsoir Guillaume Bier.
Bonsoir.
9 millions d'euros. Le courrier est arrivé au pied du sapin. Le 25 décembre, le RN va devoir s'expliquer devant la justice russe.
Oui, lors d'une audience qui est déjà programmée le 2 juin prochain à 10h20 précisément devant le tribunal arbitral de Moscou. Cette fameuse dette, c'est effectivement la conséquence l'existence d'un prêt contracté en 2014, à l'époque où le parti de Marine Le Pen cherchait des fonds pour financer ses campagnes électorales et où les banques refusaient de lui en prêter. C'est donc une banque russe, la First Czech Russian Bank, qui lui accorde cet argent avec un taux d'intérêt à 6%. Obligation de rembourser au bout de 5 ans, c'est-à-dire au 23 septembre 2019. Mais voilà, le Rassemblement National peine à s'acquitter de ses 9,5 millions d'euros. Et puis entre-temps, la créance a changé de main. La banque russe a fait faillite. Le crédit du RN a été racheté par une société de location de voitures, puis par un industriel aéronautique proche du pouvoir qui réclame désormais son dû et assigne en justice le Rassemblement National. Alors au sein du parti, malgré tout, on se veut particulièrement zen, je cite, en expliquant que c'est une procédure normale, que le remboursement est en cours. Il n'empêche, cette assignation vient un peu plus plomber les finances d'un RN déjà endetté et à qui la justice a saisi, la justice française, celle-là, a saisi 2 millions d'euros et l'État lui réclame 11,5 millions pour des soupçons d'escroquerie, d'abus de biens sociaux lors des législatives 2012.
Guillaume Billet du service police-justice d'Europe.
On file aux États-Unis maintenant. Le Parti démocrate annonce que les premiers résultats de la primaire dans l'Iowa seront publiés, alors normalement, hein, ce soir.
Ouais, mais le fiasco et le feuilleton continuent puisque seulement la moitié de ces résultats devraient être rendus publics. Et cela 24 heures après le vote à cause d'un problème informatique, semble-t-il. À ce stade, aucun chiffre officiel. Deux candidats, Pete Buttigieg et Bernie Sanders, revendiquent la victoire dans ce petit état du Midwest. Et puis toujours aux États-Unis, le rachat par LVMH du joaillier Tiffany est sur les rails. Les actionnaires ont donné leur feu vert, montant de la transaction record, plus de 16 milliards de dollars.
Le patinage artistique français en plein tumulte, en plein scandale. Même une enquête judiciaire a été ouverte pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Aujourd'hui, par le parquet de Paris, après les accusations de sa Rabbit Ball. Tout à l'heure, l'ancienne patineuse nous faisait part de son soulagement. C'était à 18h.
Et ce soir, réunion de crise à la Fédération des Sports de Glace, dont le président Didier Gayaguet est appelé à démissionner par la ministre des Sports, accusé d'avoir couvert certains faits. Il va s'exprimer demain. Ces prochaines heures seront cruciales, en tout cas Jean-François Pérez.
Oui Sébastien, avec cette question brûlante, la défense de Didier Gayaguet peut-elle tenir? Cela s'annonce très compliqué. Il y a tout d'abord ces lettres de parents de patineuses au début des années 2000. Ils se plaignent du comportement de Gilles Bayer, l'entraîneur accusé de viol à répétition par Sarah Abitbol. Ces lettres sont directement adressées à Gayaguet, comme le révèle une enquête administrative de l'époque. Il ne pouvait pas ne pas savoir, nous ont confié deux sources proches de la fédération, sources qui ajoutent pour Europe 1 une lourde de pièces au dossier. Le dirigeant aurait en effet cherché à étouffer l'affaire Morgan Cyprès, un patineur français accusé d'avoir envoyé des photos pornographiques à une patineuse américaine, âgée de 13 ans. Il ne faut pas que ça sorte, aurait-il ordonné. Le scandale avait finalement été révélé aux États-Unis. Dans ces circonstances, la démission de Gayaguet semble donc inévitable, mais pas pour sa garde rapprochée. Exemple, Patrice Morin, vice-président de la Fédération des Sports de Glace.
Je soutiens mon président, ça c'est clair, et je pense qu'il a aussi, il a prioritairement le droit de présenter sa défense et des explications, ce qui ne me semble pas vraiment être le cas jusque-là, mais bon.
Patrice Morin, au micro de Cyril de la Morinerie, on en saura plus demain à 14h pour une conférence de presse très attendue de Didier Gayaguet.
Et on vous le racontera évidemment dès 18h. Jean-François Pérez du service des sports d'Europe 1.
Et on termine avec ce procès d'une incroyable escroquerie. Sept hommes sont soupçonnés d'avoir usurpé l'identité du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et ils ont récupéré des sommes conséquentes.
Oui, pour extorquer des fonds à plus de 150 victimes, arnaque au téléphone, professionnalisé avec vidéoconférence et un masque en silicone à l'effigie de Jean-Yves Le Drian. Marion Dubreuil, vous avez assisté à l'audience et tous les regards se portaient sur le chef présumé de ce groupe, hein, Gilbert Chicly.
Oui, Gilbert Chicly, physique d'acteur, barbe de 3 jours, surteint à lait en sweat noir, a du mal à tenir en place dans le box. Il multiplie les sourires et clins d'œil au public. Au premier rang, son épouse Shirley, elle aussi en représentation. Brushing impeccable, talons aiguilles et accessoires de luxe. Ce franco-israélien est soupçonné d'être le cerveau d'un gang d'escrocs qui s'est fait passer pour Jean-Yves Le Drian pour extorquer de l'argent à des personnalités. 50 millions d'euros de butin en 2 ans. Je suis totalement étranger dans toutes ces affaires, affirme Gilbert Chicly. Le dossier, je le connais seulement pour l'avoir lu et subi. Pourtant, l'enquête de police cible rapidement le prévenu, déjà impliqué dans une arnaque du même type. Il sera par la suite identifié comme la voix du faux ministre dans une série d'enregistrements. Ce qu'il conteste bien sûr, tout comme il nie être celui qui a porté un masque en silicone à l'effigie de Jean-Yves Le Drian pour mieux tromper ses victimes en visioconférence. Je n'ai pas fait le cours Florent, pas de théâtre et je n'ai rien à voir avec cet homme. Il est gros, je suis mince. Il est imberbe, je suis poilu, explique Gilbert Chicly en remontant ses manches pour montrer entrer ses bras. On ne dit pas que cet homme vous ressemble, le mouche la présidente, puisque justement, il prétend être le ministre de la Défense.
Incroyable histoire, ouais. Récit signé.
C'est un film d'ailleurs, ça a fait un film.
Ouais. Marion Dubreuil. Les sports, le foot ce soir, 23e journée de Ligue 1. Lille mène 1-0 face à Rennes. Monaco, Angers 0-0. Les matchs viennent juste de commencer à 21h05 tout à l'heure. Nantes, PSG.
Merci Sébastien. 19h30 de retour pour de nouvelles infos. Et Anissa, ça se passe comment du côté du temps? Il y a du vent.
Oui, il y a du vent, effectivement, Nathalie. Alors, on en a eu beaucoup aujourd'hui dans les terres, sur les côtes de la Manche et les côtes atlantiques. Et bien là, demain, ça se calme. Mais attention, dans le sud, sur le Languedoc-Roussillon, jusqu'à la Côte d'Azur, jusque sur la Corse, le Mistral et la Tramontagne soufflent jusqu'à 80 km/h, 110 km/h sur l'île de Beauté. Demain, la journée commence avec des brumes et des brouillards. Soyez prudents sur les routes. Et puis, ces brumes vont se décaler au fil de la journée. Elles vont même se dissiper complètement pour laisser place à un soleil qui s'impose demain après-midi. Les températures, moins 2 à 4 le matin, 5 à 8 sur le littoral atlantique, 11 sur la Corse. Et dans l'après-midi, nous aurons 7 à 17 degrés, 9 pour Paris, 10 à Lyon et 12 à Bordeaux.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Bonsoir Aurélie Herbemont.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio avec vous, c'est l'interview politique et votre invité du jour.
Hugo Bernalicis, député La France Insoumise du Nord. Les insoumis font-ils du blocage antidémocratique sur les retraites? On lui pose la question.
Et l'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir. Votre grand journal du soir se poursuit avec vous Nathalie Lévy et tout de suite c'est l'heure de l'interview politique.
Avec Aurélie Herbemont et votre invité ce soir Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord.
Bonsoir Hugo Bernalicis.
Bonsoir.
La France Insoumise a déposé 19 000 amendements pour la commission spéciale retraite sur un total de 22 000. Les élus de la majorité vous accusent de zadisme législatif, de blocage antidémocratique. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Déjà que je préfère zadisme législatif. Au début, je n'ai pas trop compris pourquoi on nous disait ça. Après, j'ai bien compris qu'on nous accusait de vouloir faire d'occuper l'Assemblée nationale. Ça tombe bien, on est parlementaire, on est élu pour ça. Donc oui, c'est ce qu'on va faire. Et puis quand on s'est rappelé le sort qui a été réservé à la dernière ZAD, celle de Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire le retrait, finalement, oui, c'est du zadisme parlementaire. Et j'espère qu'on obtiendra le même résultat politique.
Ah, donc vous vous assumez d'être des zadistes de l'Assemblée?
Oui, en quelque sorte. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver de meilleurs compliments de la part de la majorité. Après, c'est clair que nous, notre manière de prolonger l'action de grève qui est faite par les salariés dans ce pays depuis des semaines et des semaines, c'est une forme de grève du zèle, comme le font les avocats, par exemple. C'est notre contribution. Parce qu'on nous a dit pendant des semaines et des semaines qu'il y avait du dialogue, de la négociation, etc. Je crois qu'on a tous vu que c'était faux, qu'en plus les chiffres sont pipés à la fin, parce que vous avez une étude d'impact qui est truquée, qu'on fait le Conseil d'État qui le dit, pas la France Insoumise.
Qui a effectivement été très sévère avec l'étude d'impact du gouvernement.
Bah et on comprend, vous avez dans l'étude d'impact une infirmière qui, un cas type, qui est payée 2500 euros net. Bon, il y a beaucoup d'infirmières dans ce pays qui aimeraient être payées 2500 euros net. Voilà, je vous le dis tout de suite. Hein, ils signent directement. Bon, c'est ça l'étude d'impact du gouvernement. Donc c'est vous dire le niveau auquel on se trouve. Donc oui, face à cette provocation politique, cette volonté de passer en force à l'Assemblée nationale, de faire de nous une chambre d'enregistrement, eh ben on dit non, ce ne sera pas une chambre d'enregistrement. On bloquera tout ce qu'il est possible de bloquer dans le processus législatif. Et on le fait de la meilleure façon qui soit, en parlant, parce qu'on est parlementaire. Donc au Parlement, on parle et on déploie nos arguments.
Mais est-ce que c'est très constructif de multiplier par dizaines les amendements de suppression des articles de la loi ?
Bah non, c'est pas particulièrement constructif.
Ah d'accord, vous assumez.
Mais bien sûr, évidemment. Mais c'est ce qu'on attend de nous. D'ailleurs, on a beaucoup de messages de soutien et de solidarité depuis qu'on a annoncé déposer 19 000 amendements et depuis qu'on commence à les défendre, c'est-à-dire depuis hier, parce que c'est ça qu'on attend de l'opposition, s'opposer, ne rien laisser passer, ne pas laisser un pouce de terrain à cette majorité, à ce gouvernement. Et on voit bien qu'en plus, les gens ne croient plus à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On a l'impression d'avoir une majorité de godillots. On en parlera sans doute après, mais le texte sur le congé...
On en parlera juste après.
Bon, voilà, enfin, ça a montré, ça a été la démonstration que ces parlementaires, ils ne sont pas là pour faire de la politique, ils sont là pour voter ce que fait le gouvernement. Et quand vous avez une loi à trous, quand vous avez une étude d'impact truquée, bah oui, c'est notre devoir de parlementaire de dire on n'en veut pas de votre texte.
Mais
on
alors,
n'en veut pas.
Justement, Hugo Bernalicis, vous arrivez de la commission spéciale directement dans ce studio.
Et je retourne après.
Hier, en 6h30, prenons les délais, 6h30, ce sont 245 amendements qui ont été examinés, donc sur 22 000. À ce rythme-là, même si vous siégez tout le week-end, vous n'y arriverez pas. L'objectif, c'est quoi ? C'est que la commission ne puisse pas faire son travail ?
Bah, elle fait son travail, mais vous savez, elle n'a pas été programmée pour pouvoir faire son travail. Elle était programmée en procédure accélérée pour torcher ça rapidement. Quand on dit, ah, on y va, allez, c'est bon, une semaine, ça va, ça suffit. Ils vont pas nous embêter, l'opposition, comme ça, pendant des jours et des jours. Eh bien, si, on va les embêter jusqu'à ce qu'ils soient épuisement s'en suivent. Voilà. Ils nous épuisent avec leurs réformes, leurs lois à trous. Ils épuisent les manifestants parce qu'ils veulent écouter, entendre personne. Eh bien, on va les épuiser aussi. Voilà ce qu'on leur dit à l'Assemblée nationale. On a beau être pas nombreux, parce que je vous rappelle qu'on n'est que 17.
Vous êtes 17 au groupe Insoumis.
On a une capacité de parler longtemps. Et vous savez, c'est pas tant que ça, en fait. Hein. Enfin, c'est pas si problématique que ça, 250 sur le nombre d'heures que vous avez indiqué. Moi qui ai fait loyalement, normalement, le projet de loi justice, on avait 400 amendements à la France Insoumise, qui n'étaient pas des amendements de suppression. Il y en avait, évidemment, mais pas seulement. Et ça a pris 66 heures de débat en tout. Donc vous voyez, ça c'est le travail normal. Est-ce qu'on a prévu 70 heures sur la commission spéciale ? Non, absolument pas. On a prévu, encore une fois, la procédure accélérée pour tuer le débat parlementaire. Parce qu'on s'en fiche du Parlement dans ce pays. En tout cas, c'est ce que pense Emmanuel Macron.
Mais si jamais vous n'avez pas le temps en commission spéciale de terminer, ouais, ça veut dire que le 17 février, dans l'hémicycle, le texte qui sera soumis à l'examen des députés en formation tous ensemble, ce sera le texte initial du gouvernement. Ça veut dire que vous et vos collègues, vous aurez passé une semaine à travailler pour
rien. En tout cas, tous les amendements qui auraient été adoptés, retour à la case départ, mais et voilà, on reprend le texte. Non, mais ça veut bien dire qu'il faut, quand vous arrivez sur un débat comme ça, un débat de société extrêmement important, on réforme un système qui a été mis en place depuis 1945 et qui n'a pas bougé depuis, je veux dire, dans son principe, qui est un des piliers de la France, qui gère un énorme budget, plus de 300 milliards d'euros. Et eux, ils veulent réformer ça en procédure accélérée. Enfin, toutes les grandes lois, si c'est vraiment une grande loi pour ce pays, un vrai nouveau système, eh ben on prend le temps d'en discuter à l'Assemblée nationale, comme on prend le temps d'en discuter avec les partenaires sociaux, enfin, en tout cas avec les organisations syndicales. Or, ni avec les organisations syndicales, ni avec les parlementaires, le temps n'est pris. Donc c'est bien une volonté, encore une fois, de passer en force. Et ce n'est pas acceptable pour nous.
Alors, la majorité vous critique sur cette attitude revendiquée et assumée de blocage, mais dans l'opposition aussi, le patron du groupe LR, Damien Abad, dit que l'attitude des insoumis est guignolesque et il ajoute que vous êtes les idiots utiles du système qui sert le gouvernement.
Eh bien, écoutez, ses collègues parlementaires du groupe Les Républicains l'auront mal entendu, puisque je crois qu'ils ont commencé à faire un peu d'obstruction et à faire des prises de parole sur nos propres amendements, là, pas plus tard que tout à l'heure en commission spéciale.
Les LR aussi vont se mettre au zadisme législatif, selon vous.
Mais en fait, parce que c'est ce qu'on attend de nous. C'est ce qu'on attend des oppositions. Je dis bien des oppositions au pluriel, parce qu'il y a nous, il y a les socialistes, il y a les communistes, il y a les républicains. Ils le voient bien dans le pays quand ils retournent en circonscription, qu'on attend d'eux de ne pas être les bons élèves sages, sympas, et de juste défendre ces amendements et comme ça, et dire la réforme, elle va passer, tant pis. Non, la réforme, il faut qu'elle soit retirée, parce que les Français, ils sont majoritairement opposés. La bataille de l'opinion a été perdue. Enfin, ce n'est ni fait ni à faire. Donc, le plus sage, le plus utile pour le pays, ce serait de retirer cette réforme des retraites.
Un autre sujet, vous commenciez à l'évoquer tout à l'heure, a créé des remous à l'Assemblée, y compris chez les marcheurs. C'est la fameuse question du congé pour les parents dont un enfant est décédé. Texte soumis par l'UDI la semaine dernière qui a été rejeté par En Marche. Aujourd'hui, ils disent « on a fait une erreur, on va réparer, dont acte ».
Alors, il faut qu'ils accordent leur violon aussi, hein, parce que le président de groupe... tout à l'heure, de La République En Marche, a dit non, ce n'est pas une erreur, c'est qu'on voulait prendre ça dans sa globalité. Même le Premier ministre a dit oui, j'assume, on fait une erreur. Ou plus exactement, nous n'avons pas bien expliqué, nous n'avons pas su convaincre qu'il fallait prendre le sujet dans sa globalité. Non, mais alors, c'est une erreur, c'est pas une erreur. 12 jours, pas 12 jours. Ils disent oui, mais 12 jours, ça résout pas le problème. Quand vous perdez un enfant, c'est pour la vie que vous l'avez perdu.
Ils expliquaient que le texte initial était mal ficelé.
Oui, ils avaient qu'à mieux le ficeler et puis travailler. Enfin, je veux dire, c'est cette attitude méprisante sur l'ensemble des niches parlementaires de tous les textes. Et là, on avait un texte consensuel. Et on voit bien que le sort qui est réservé à ça, quand on ne s'y intéresse pas, quand l'opinion publique ne s'y intéresse pas, c'est circuler, il n'y a rien à voir, ça ne rentre pas dans notre agenda, on ne l'avait pas prévu, c'est peut-être une bonne idée, mais on verra ça plus tard. Et bien ça, ce n'est pas le respect du Parlement. Donc à force de marcher sur les pieds du Parlement, de l'Assemblée nationale, je crois que les parlementaires ont raison de se rebiffer et puis de dire dorénavant, ce ne sera plus comme avant cette réforme des retraites, comme tout le reste, ne passeront plus dans ces conditions-là, tout au moins.
Et donc le blocage s'annonce pour durée à l'Assemblée avec les Insoumis. Merci beaucoup Hugo Bernalicis.
Avec plaisir.
Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy.
Un journaliste engagé pour le climat, Hugo Clément, va s'installer avec nous dans un petit instant. Il reste d'ailleurs jusqu'à 20h. On va parler de son émission sur le front et de son livre aussi.
Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Et Nathalie, tous les jours avant 19h30, on prend un temps d'avance, on regarde le monde changer et on s'intéresse à ce qui va se passer demain.
En région, avec vous Pauline Jacquot notamment. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue Pauline. Alors ce soir, on zoome sur ces supermarchés qui sont en train de tester une initiative pour le moins originale, faire ses courses dans le calme, sans aucun bruit. Oui, c'est possible, ça se passe même un peu partout en France. Comment ça se passe concrètement?
Eh bien, écoutez, on va se mettre un petit peu en situation. Samedi matin, vous décidez d'aller faire vos courses au supermarché. C'est pas forcément le moment le plus agréable de votre semaine. Là, vous poussez votre caddie et la surprise, vous n'entendez rien. Il n'y a pas d'annonce au micro sur les promos au rayon boucherie. Il n'y a pas de musique en fond. Les lumières sont tamisées, on coupe le son. C'est testé en Bretagne par Carrefour et un peu partout en France par Système U. L'idée, c'est d'aider les personnes atteintes de troubles autistiques à faire leurs courses. Le dispositif a été mis en place depuis un mois par le PDG de Système U, Dominique Schelcher, dans 1600 magasins.
On va même jusqu'à baisser les bips sonores des scanners en caisse, qui sont en fait assez perturbants. Même les clients qui ne sont pas concernés par le premier sujet nous disent « mais en fait, vous devriez plus souvent réduire les sons, la lumière, parce que ça nous permet de faire les courses dans des conditions plus calmes et plus agréables ». L'accueil dans toute la France, hein, dans les petites villes, les grandes villes, partout a été formidable.
En tout cas, l'idée peut attirer des nouveaux clients parce que ça peut plaire de ne pas être dans le brouhaha constant. Elle peut se généraliser du coup, Pauline?
Oui, ça peut généraliser. Pour le moment, c'est qu'une fois par semaine, le mardi, 2 heures pour ce qui concerne Système U. Ça peut être d'autres jours de la semaine en ce qui concerne Carrefour. Au départ, c'était vraiment pour ces clients hypersensibles au bruit. Mais ça marche tellement bien que Système U, par exemple, pourrait vraiment changer son modèle, généraliser tout ça. Le PDG me disait, ça fait 40 ans que nous sommes coincés dans le même modèle de consommation. Il serait peut-être temps de changer un petit peu d'idée. Et cette initiative nous pousse à repenser tout ce système-là. Et pour vous donner une idée, au Royaume-Uni, l'idée est déjà bien implantée. Il y a 5000 supermarchés aujourd'hui qui ont opté pour ce modèle silence total.
Mais de fait, les clients seront sûrement plus respectueux, plus silencieux aussi, parlent moins fort. Un cercle vertueux.
Un cercle vertueux, tout à fait.
Merci beaucoup, Pauline Jacquot. Demain dans le monde, on s'éloigne un petit peu avec vous. Enfin, on s'éloigne. Il y a des cas en France, bien sûr. On parle de quoi? Du coronavirus. Avec vous, Didier François, bienvenue. Et c'est cette incapacité de la Chine à contrôler la diffusion de ce virus, puisque la maladie a désormais fait plus de victimes que l'épidémie de SARS, qui avait déjà durement frappé le pays. C'était il y a 17 ans maintenant, en 2002-2003. Hein.
Oui, alors c'est un peu la panique hein, en Chine, où 425 personnes sont désormais mortes de l'infection en à peine 2 mois. C'est donc largement plus que toute l'épidémie de SARS qui avait tué 349 personnes en une année. Et surtout, le nombre de malades continue de progresser avec 20 400 patients contaminés à ce jour, malgré les mesures prises. Et le plus inquiétant étant que le virus se rapproche dangereusement de Shanghai, une immense mégalopone, 70 millions d'habitants, qui est la capitale économique de la Chine. Vous imaginez la catastrophe si elle était touchée à son tour.
Alors on ne préfère pas, mais Pékin a décidé de nouvelles mesures de confinement.
Absolument. Donc la province Hubei, la ville de Wuhan, qui au centre de l'épidémie, sont désormais en quarantaine absolue, avec une interdiction absolue d'y entrer ou d'en sortir. Des limitations strictes de déplacement ont également été imposées dans 3 nouvelles villes, dont Hangzhou, située à seulement 150 km de Shanghai, qui est le siège d'ailleurs d'Alibaba. Le géant chinois de commerce en ligne. Dans ces 3 agglomérations, une seule personne par famille est désormais autorisée à quitter son foyer pour faire des courses une fois tous les 2 jours. La police a d'ailleurs déployé des drones qui traquent les contrevenants et s'assure qu'ils portent bien des masques de protection au cours de leur sortie.
Puis c'est drastique.
Ah oui, c'est drastique. Les congés annuels d'ailleurs du nouvel an lunaire ont été prolongés de plusieurs jours pour éviter le retour dans leurs usines de centaines de millions de travailleurs qui étaient allés passer les fêtes dans leur famille en province.
Bon, alors là, on ne fait pas les choses à moitié. Faut-il s'inquiéter de cette situation?
Alors, le ministère chinois a reconnu officiellement, c'est la première fois que des défaillances avaient touché ses réactions initiales à l'épidémie. Il a d'ailleurs commencé à limoger certains responsables régionaux qui ont été accusés d'incompétence. Alors, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour sa part, reste plutôt sereine. Elle a estimé aujourd'hui qu'on ne courait pas encore un risque de pandémie, ce qui est le terme qu'on emploie lorsque l'épidémie devient mondiale et surtout incontrôlée.
Mais vous l'avez dit, les sanctions tombent, hein, on l'a compris. Merci beaucoup Didier François, on suivra de près ce dossier avec vous. Bien entendu, demain dans nos vies, Théophile Cossa, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Coup d'œil ce soir sur un nouvel hôtel qui vient d'ouvrir dans la capitale, à Paris, un hôtel garanti zéro plastique.
Oui, le tout premier de la capitale, l'hôtel 4 étoiles Opéra Liège.
Et à 4 étoiles en plus.
4 étoiles. Alors, quand on parle d'hôtel zéro plastique, il ne s'agit pas de l'architecture du bâtiment. On parle ici de tous les objets plastiques à usage unique. Vous savez, ces objets pointés par la loi Egalim qui prévoit leur suppression d'ici 2040, bouteilles, flacons, dosettes, vous savez, hein, les hôtels en regorgent. Et bien justement, cet établissement a dit stop. Au total, ce sont, tenez-vous bien, 100 000 objets et emballages qui ont été proscrits. Fini les petites bouteilles plastiques, place au verre, les savons, shampoings liquides remplacés par des savonnettes solides, les crèmes dans des petits flacons en verre rechargeable, la brosse à dents en bambou, le dentifrice en pastille, le sac poubelle en amidon de maïs et le top du top, la carte magnétique pour ouvrir la porte de sa chambre en bois.
En bois, alors c'est génial, mais j'imagine que ça doit coûter sérieusement cher.
Alors évidemment, la conversion a un coût, quelques centimes de plus par produit, mais pas de vrai impact sur le prix de la nuit, aux alentours de 190 euros, ce qui est un tarif normal pour un établissement de ce type. La direction assure en fait qu'à moyen terme, sur des gros volumes, ça devient rentable. Le plus dur, en fait, ça reste de changer les habitudes. Ben oui, le personnel doit maintenant s'habituer à nettoyer et remplir toutes les bouteilles et flacons, plutôt que de les jeter. Un aperçu de ce qui nous attend, nous aussi, en 2040.
Ça, c'est quand même une vraie bonne initiative qui va sûrement séduire notre invité Hugo Clément. Il nous rejoint dans un petit instant dans ce studio, le journaliste écolo engagé. Il sera là sur Europe 1 jusqu'à 20h.
Et vous pouvez lui poser toutes vos questions au 39-21. Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Sébastien Krebs, ses titres.
Rayon de crise ce soir au siège de la Fédération française des sports de glace. Son président Didier Gayaguet peut-il tenir? La ministre des Sports l'appelle à démissionner. Une enquête judiciaire est désormais ouverte après les accusations d'agression sexuelle visant un entraîneur. Christophe Castaner revoit sa copie pour les municipales. Sa circulaire, retoquée par le Conseil d'État, a été réécrite. Le seuil abaissé, les étiquettes politiques ne disparaîtront que pour les communes de moins de 3500 habitants. Aux États-Unis, le fiasco de la primaire démocrate dans l'Iowa, le parti annonce qu'à ce stade, il ne sera en mesure de publier uniquement que la moitié des résultats ce soir à 23h, et cela 24 heures après le vote. Bernard Arnault se réjouit d'accueillir Tiffany, dont je cite la famille LVMH. Les actionnaires du joaillier américain ont donné leur feu vert ce soir au rachat par le géant français du luxe, montant record 16 milliards de dollars. Et puis le football, 23e journée de Ligue 1. Lille mène face à Rennes ce soir 1-0. Monaco mène également face à Angers 1-0 après une demi-heure de jeu. À 21h05, Nantes reçoit le PSG.
Merci Sébastien, l'info revient avec vous demain 18h. Anissa, ça va souffler.
Oui, ça souffle encore demain. Alors aujourd'hui, ça a beaucoup soufflé hein, sur le nord, dans les terres, etc. Demain, ça va souffler uniquement dans le sud du Languedoc-Roussillon jusqu'à la Côte d'Azur et puis sur la Corse. La Corse du Sud qui reste toujours en vigilance orange pour vent violent.
C'est dur. C'est l'heure.
Et puis, la journée de demain sera placée sous le soleil. Les températures 7 à 17 degrés demain après-midi. Nous aurons moins 2 à Angoulême et Sochaux et 5 à Paris.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec votre invité. Vous recevez ce soir Hugo Clément.
Oui, Hugo Clément, qui est sur tous les fronts. C'est le titre de son émission sur France 2, mais aussi ce livre, Comment j'ai arrêté de manger les animaux, qui ressort au point. Bonsoir Hugo Clément.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
Dans ce studio, Hugo Clément, parce qu'on avait envie de vous faire réagir à plusieurs choses ce soir. À l'instant, il y avait cette chronique de Théophile Cossa sur cet hôtel garanti zéro plastique. Même la carte, maintenant, la carte magnétique dans la chambre, est en bois. On voit bien que les efforts se font, que la société se bouge, même dans les établissements hôteliers.
Oui, bien sûr, ça bouge un peu dans tous les secteurs et c'est très encourageant pour la suite.
Alors, il y a cette date, mardi dernier, le ministère de l'Agriculture a annoncé l'interdiction du broyage des poussins et de la castration à vif des porcelets d'ici 2021.
Ouais.
Vous applaudissez enfin, vous soupirez de soulagement, vous soufflez de soulagement.
Bah évidemment, on peut que saluer cette interdiction si elle est bien inscrite dans la loi. On verra ce qu'il en est. Pour l'instant, il y a assez peu de détails. En fait, ce que ça révèle surtout pour moi, c'est que ça existe encore aujourd'hui. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui encore en France, on continue à broyer 50% des poussins issus des poules pondeuses. 50% partent dans un broyeur vivant. Et le fait que ça existe encore aujourd'hui en 2020 en France, ça devrait nous interroger.
On voit régulièrement sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, des images édifiantes, effectivement, de la manière dont sont traités les porcs, aussi les porcinets, les poussins, on l'a dit. Il y a les usines de la mort que vous dénoncez. Clairement, il y a ces élevages intensifs, il y a ces abattoirs atroces, mais il y a aussi les petits élevages.
Tout à fait. Il y en a.
Pourquoi on ne le dit pas? Pourquoi on le dit moins?
Oh, je pense qu'on le dit. En tout cas, moi, dans mon livre, j'en parle beaucoup de ces petits éleveurs. Mais pourquoi on le dit moins? Tout simplement parce qu'ils représentent une goutte d'eau dans l'élevage aujourd'hui en France.
Véritablement ?
Mais bien sûr. Par exemple, si on prend l'exemple de l'élevage porcin, l'élevage porcin en France, c'est 95% de porcs qui sont élevés dans des bâtiments fermés toute leur vie sur caillebotis, c'est comme ça qu'on appelle les sols en plastique ou en métal. Donc 95% des cochons élevés en France ne voient jamais la lumière du jour, ne sortent jamais du bâtiment. 95% d'élevage intensif.
Ils sont dans des cages qui sont de la taille de leur corps.
Alors ça dépend des périodes de leur vie, mais en tout cas les truies au moment de la gestation et juste après la mise bas, effectivement, sont dans des cages qui les empêchent même de se retourner. Et après les cochons, lorsqu'ils grandissent, sont dans des enclos entassés les uns sur les autres. C'est le cas pour les cochons, c'est le cas pour les poules pondeuses. Il y a encore 60% de poules pondeuses en cage aujourd'hui en France. Plus de 80% des poulets de chair qu'on mange pour leur chair sont dans des élevages ultra intensifs où ils sont jusqu'à 22 par mètre carré. Ça fait une feuille à 4 par poulet. Les lapins, 99% d'élevage en cage. Et on peut égrainer comme
les espèces. C'est vrai. Mais alors qu'est-ce qu'on fait, Hugo Clément ? Parce que vous le dites dans votre livre, page 44, je crois. Je n'aimais pas les animaux. J'arrive plus à lire, il me faut des lunettes d'urgence. Page 16, page 14. Je n'aimais pas les animaux, j'aimais les manger, ça oui, j'aimais le goût de leur chair, mais je n'ai jamais eu un animal de compagnie et je n'ai pas eu envie d'en avoir. Vous n'avez pas grandi à la campagne et puis tout à coup un jour...
Oui et non, j'ai grandi comme beaucoup de Français à la frontière entre la ville et la campagne dans une banlieue pavillonnaire, mais j'étais quand même entouré de champs à Pont-Pertuisat où j'ai grandi, côté de Toulouse.
Mais vous n'aimiez pas les animaux, je me trompe
pas. C'est pas que j'aimais pas les animaux, c'est que j'ai jamais eu un amour pour les chiens et les chats comme beaucoup de mes potes qui adoraient leur chien, leur chien. Moi je m'en suis jamais préoccupé. Donc je mangeais les animaux et j'avais pas un amour inconditionnel pour eux jusqu'au jour où j'ai réalisé la manière dont on les traitait.
Mais comment ça s'est fait?
Ça s'est fait à travers des lectures, mais surtout à travers des reportages. C'est-à-dire le moment où j'ai mis un pied dans un élevage intensif, le moment où j'ai rencontré un ouvrier qui travaillait dans un abattoir et où on m'a expliqué comment ça se passait, je suis tombé de ma chaise parce que je me posais pas la question avant.
À ce moment-là, vous y allez pour votre travail de journaliste ou vous le faites dans une démarche
Alors j'y vais, pour mon travail de journaliste. D'accord. Et au fil des reportages, ça a renforcé ma conviction que je n'avais plus envie de participer à ça. J'avais plus envie de donner mon argent à un secteur qui traite les animaux de la sorte. Si on maltraite un chien aujourd'hui ou un chat en France, si je vais dans la rue, que je croise un chien et que je le découpe pour le faire cuire au barbecue, on va dire que j'ai un problème, que je suis détraqué et puis je vais être mis au banc de la société et traduit en justice parce qu'il y a des lois qui protègent les animaux domestiques. En revanche, on fait la même chose tous les jours à des millions de porcs, de poulets, de lapins, de vaches, et ça pose des problèmes à beaucoup moins de monde. C'est cette contradiction que j'ai voulu interroger avec ce livre.
J'entends bien, mais quand même, on prend de plus en plus en compte le bien-être animal. On va en reparler dans un petit instant. Il y a des vidéos, il y a énormément de choses. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Hugo Clément, vous êtes avec nous jusqu'à 20h. Le pouvoir est dans notre assiette. Comment j'ai arrêté de manger des animaux. C'est votre livre. Et puis, on va parler de l'émission aussi sur le front.
Europe 1, il est 19h38. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec votre invité Nathalie Lévy. Vous recevez Hugo Clément jusqu'à 20h et vous pouvez lui poser toutes vos questions en direct. N'hésitez pas, ça se passe sur Twitter, hashtag Europe 1 et au 3921, c'est le standard.
Oui, comment j'ai arrêté de manger les animaux. Hugo Clément a signé ce livre qui est ressorti aux éditions Point. Et puis il y a cette émission dans laquelle vous parcourez le monde et vous nous parlez d'écologie sur le front, sur France 2. On va y revenir dans un instant. Raphaël nous appelle de Paris. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir.
Bienvenue à vous. N'hésitez pas à poser votre question.
Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Clément.
Bonjour.
Donc vous affichez des positions qui sont très clairement tout ce qui est véganisme, écologie, etc. Pourtant, on vous voit souvent dans des reportages qui sont, j'imagine, très coûteux à produire à travers le monde. Donc on sait que tout ce qui est voyage, etc., ça coûte beaucoup à l'écologie. Comment est-ce que vous réconciliez vos actions avec vos croyances morales ?
Écoutez, c'est assez simple. On fait tout pour réduire notre impact. Alors évidemment, pour parler des catastrophes environnementales un peu partout dans le monde, en Australie notamment, il faut y aller. Moi, je ne suis pas partisan du journalisme qui reste dans un bureau et qui se contente de commenter des images qu'il n'a pas tournées lui-même. Après, on réduit notre impact en partant avec des équipes très réduites. On est seulement 3 ou 4 sur le terrain, ce qui est une équipe vraiment très très petite pour ce type d'émission où d'habitude, c'est parfois plusieurs dizaines de personnes. Donc on est très peu. On a un partenariat avec la Fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand qui nous permet de financer. Alors, c'est pas de la reforestation parce que planter des arbres, finalement, ça a un impact, mais que dans des dizaines d'années. Nous, on finance le fait de ne pas en couper avec la fondation Good Planet. Et donc, on essaye d'avoir l'impact le plus petit possible. Après, évidemment, faire des reportages à l'autre bout du monde, évidemment, ça pollue. Oui, ça va de soi, on ne peut pas faire autrement. La question, c'est que moi, j'espère que l'impact de ces reportages est beaucoup plus important dans le sens positif que les quelques tonnes de CO2 qu'on dégage pour les produire.
Merci Raphaël, merci d'avoir appelé ce soir sur Europe 1. Je vais un peu prolonger la pensée de Raphaël. Enfin, quand vous avez sorti votre livre, vous avez insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas de faire de la morale.
Ah, surtout pas.
Surtout pas, mais sauf que malgré tout, vous y allez. Franchement, les animaux sont des êtres sensibles que nous traitons de manière ignoble. Il faut arrêter de manger de la viande.
Alors, je dis pas qu'il faut arrêter de manger de la viande. Non, je dis pas ça. Je dis que moi, en découvrant ces informations-là, en faisant ces reportages-là, j'ai décidé de ne plus participer à ça. Mais je dis aussi très clairement dans le livre que celles et ceux qui veulent continuer à manger des animaux, c'est leur droit de le faire. Ils sont majoritaires aujourd'hui et c'est pas moi qui en mangeais encore il y a 3 ans et qui en mangeais beaucoup. Hein. Je passais ma journée à manger de la viande et du poisson. mon père est chasseur sous-marin, donc autant vous dire que des animaux, j'en ai mangé. Donc c'est pas moi qui vais venir aujourd'hui dire c'est horrible, il faut que tout le monde arrête tout de suite. C'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il faut savoir de quoi on parle, qu'il faut connaître la réalité de l'élevage aujourd'hui en France et de la pêche. Et qu'une fois qu'on a les informations, on prend ses décisions pour soi-même. Et seulement pour soi-même, pas pour les autres.
Votre père est chasseur sous-marin ?
Mon père est chasseur sous-marin, effectivement.
Du coup, comment ça se passe, les dîners de famille ?
Mais ça se passe très bien, parce que, mais vous savez, autour de moi, j'ai une majorité de gens qui ne sont pas végétariens. Ouais. Donc ça se passe très bien. Non, on a des points de vue différents sur certaines choses, mais
la chasse sous-marine, vous ne validez pas, de fait. Donc,
moi, de fait, ce n'est pas quelque chose que je vais pratiquer parce que, je le dis dans le livre, hein, que mon père est chasseur sous-marin, ce n'est pas quelque chose que je vais pratiquer parce que je n'ai pas envie de tuer un animal dont je n'ai pas besoin pour me nourrir, mais c'est son droit, c'est sa passion, il fait absolument ce qu'il veut, et c'est certainement pas moi qui vais lui dire ce qu'il doit faire.
Hugo Clément, vous êtes un enfant de votre siècle, de votre temps, de votre époque, vous êtes énormément sur les réseaux sociaux.
Ouais.
C'est pourquoi ? Je me posais la question, parce qu'il y a des posts très engagés, d'autres beaucoup plus privés, concernant effectivement votre vie privée, votre compagne, votre enfant, votre bébé, d'ailleurs, félicitations.
Merci.
Je crois que c'est très intéressant.
Merci.
Pourquoi ce mélange des genres ?
C'est pas un mélange des genres, en fait, j'utilise les réseaux sociaux comme n'importe quelle personne de 30 ans aujourd'hui qui est inscrite sur les réseaux sociaux utilise ces réseaux, c'est-à-dire que je partage mes coups de gueule, je partage mon travail, je partage des photos de jolis paysages quand je trouve un paysage joli, je partage des photos de mes amis, de ma famille quand j'en ai envie, sans jamais exposer les enfants, évidemment, parce qu'on ne choisit pas pour eux, mais j'utilise les réseaux comme n'importe quelle personne de 30 ans. Je pense que je ne suis ni plus ni moins dans l'utilisation de ces réseaux.
Vous vous considérez aujourd'hui comme un lanceur d'alerte, Hugo Clément ?
Non, je me considère comme un journaliste qui fait des enquêtes et qui révèle des informations qui sont parfois cachées. Et j'essaye d'élever le niveau d'information sur les questions environnementales. Je ne suis pas du tout le seul à le faire. Et les lanceurs d'alerte, ce sont les gens qui sont dans les industries, qui prennent des risques pour leur métier, qui prennent des risques parfois pour leur vie dans certains pays. C'est eux qui prennent les plus gros risques, parce que nous, on se contente de faire des enquêtes journalistiques et de relayer leur travail.
Greta Thunberg, vous applaudissez ou vous dites elle est quand même... Elle est quand même guidée par les lobbies, je voulais pas.
Quel lobby ? Alors un lobby, c'est un groupe qui défend des intérêts financiers. Hein, il faut pas confondre lobby et militantisme. Un militant, c'est quelqu'un qui défend ses idées. Un lobbyiste, c'est quelqu'un qui défend son argent. Et c'est quand même deux choses bien différentes. Je pense pas qu'on puisse dire que Greta Thunberg soit manipulée par des lobbies. Elle est encadrée par des gens qui défendent un point de vue, qui défendent une idée, qui est d'écouter la science, de faire en sorte qu'on n'aille pas collectivement dans le mur et que l'espèce humaine puisse encore vivre sur cette planète dans quelques décennies. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut reprocher à Greta Thunberg, si ce n'est de dire la vérité, et qui parfois n'est pas très bonne à dire. On l'attaque souvent, vous aurez remarqué, sur son apparence, sur son âge, sur son comportement, sur ses gestes. Et je trouve ces attaques un peu abjectes, parce qu'il faudrait parler que de ce qu'elle dit et pas de ce qu'elle est.
Et la France ? Et la France dans tout ça ? Est-ce que notre pays, est-ce que notre président en fait assez pour l'écologie ? Est-ce que c'est un président vert ?
Non, je pense qu'on peut pas dire que notre pays, je parle pas des personnes parce que je parle d'un système, notre pays clairement n'en fait pas assez pour l'écologie, on pourrait faire beaucoup plus, mais c'est le cas de la plupart des pays du monde malheureusement.
Vous nous parlez pas d'Emmanuel Macron, donc on va y revenir dans un petit instant. Mathieu Charrier aussi nous rejoint pour parler cinéma. On est mardi.
Europe 1, il est 19h47. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, et vous le savez, on parle culture, vous recevez Hugo Clément, on va continuer à découvrir son livre, on va parler cinéma aussi, mais là c'est l'heure de la playlist, Nathalie.
Oui.
On s'écoute quoi ce soir ?
Alors, un des tubes du groupe Black Eyed Peas, Let's Get Retarded. Let's get retarded in here. Let's get retarded in here. Let's get
vous avez envie de faire
tout
la fête.
Connaît, hein, tout le monde connaît, tout le monde connaît.
Oui, oui, on connaît.
Tout le monde connaît, évidemment. Alors voilà, c'est, on connaissait déjà les premières têtes d'affiche de la prochaine édition de Solidays, le festival. On a d'autres éléments donc ce soir. Le groupe culte Black Eyed Peas sera aussi de la partie, tout comme Métronomie, on vous l'a dit. Le festival, c'est du 19 au 21 juin à Paris. Et ce jeudi, alors ce jeudi, soyez attentifs, à midi, 25 000 passes 3 jours seront mises en vente à partir de 39 €. Alors rendez-vous sur solidays.com. Europe 1, partenaire de ce festival.
Et prochain titre de la playlist du 18-20, ce sera demain à la même heure, évidemment. Alors Nathalie, nous sommes mardi. Le mardi, c'est veille de sortie ciné. Et forcément, le mardi, c'est Mathieu Charrier sur Europe 1 avec les meilleurs films à voir. Salut Mathieu Charrier, bienvenue.
Bonjour à tous.
Le nouveau film porté par Alain Chabat, ça s'appelle Hashtag, je suis là.
Exactement, réalisé par Éric Lartigot. Les deux hommes se retrouvent donc 14 ans, vous savez, après Prête-moi ta main, 5 ans après le succès de la famille Bélier pour Lartigot. Alors Chabat, il se glisse dans la peau de Stéphane, restaurateur au Pays Basque. Ni heureux, ni malheureux, il vit sa vie, les affaires vont plutôt bien. Il est père de deux garçons, mais vous voyez, tourne en rond, on le ressent. Alors pour pimenter un peu son quotidien, il commence à discuter sur les réseaux sociaux avec une sud-coréenne qui s'appelle Soo. On comprend qu'il en tombe amoureux petit à petit. Et un jour, Stéphane décide de partir, la retrouver à Séoul, dès le lendemain. D'ailleurs, pas question de perdre de temps. Mais une fois arrivé à l'aéroport, Soo ne vient pas, début d'une longue errance, détaille Alain Chabat.
Il communique avec cette personne sur Insta. Bah voilà, Insta c'est parfait, hein. Les photos de bouffe sont nickel, enfin tout est nickel, les filtres sont top. Et puis il décide d'aller la rencontrer, donc il décide de traverser le miroir Instagram. Donc je dirais c'est presque plus une espèce de courage ou de vivre son fantasme que de fuir. Mais oui, dès que son Insta s'allume, lui aussi il s'allume et il se retrouve dans ce sas où tout le monde bouge. C'est le concept d'un aéroport, évidemment. Et lui, il est un peu tanké là. Et finalement, il se met à bouger dans cette ville, quoi. En tout cas, en parlant avec les gens de l'aéroport de Séoul, ils nous ont dit qu'effectivement, ils en avaient un ou deux ou trois par mois, dans ce cas-là, qui débarquent pour rencontrer quelqu'un. Et ce quelqu'un ne venant pas, il erre un peu comme ça dans l'aéroport. Et au bout d'un moment, il les repère assez vite. Et en gros, ils leur disent il faut... Ben, repartez quoi, enfin, tu vois, faut pas rester ici.
Voilà, Je suis là, qui est un film dont il est assez dur de résumer l'ambiance, une comédie romantique mais solitaire, si je puis dire, qui fait du bien et nous rappelle, c'est assez bête à dire, mais c'est vraiment le message du film, qu'il faut vivre sa vie, prendre le temps de la vivre, pas la laisser défiler. Bref, c'est un joli film, on n'est pas dans la grosse comédie, hein, je le précise, parce que certains en voyant la Chabat se disent on va bien se marrer, c'est pas le profil du film, mais prenez le temps d'aller voir ce Je suis là.
Il y a un message sur les réseaux sociaux,
Eric,
c'est ça.
Léger.
Ah ouais, léger.
Non, mais le message sur les réseaux sociaux de ces virtuels, on l'a déjà vu 50 fois, c'est pas ce qui est le plus intéressant.
Ne vous énervez pas,
c'est
très agressif.
Et en tout cas, il y a les cerisiers en fleurs de Corée du Sud, ça met tout le monde d'accord. Votre autre coup de cœur de la semaine, c'est La dernière vie de Simon.
Exactement,
dire
porté par Benjamin Voisin, retenez ce nom, il sera à l'affiche de 4 films cette année, dont celui-là qui est un pur film de genre français. Écoutez le résumé. Simon, il est orphelin. Un jour, il fait la connaissance de Thomas et Madeleine, deux frères et sœurs qu'il invite à passer un week-end chez eux. Simon leur révèle alors son secret. Il peut se transformer et prendre l'apparence de n'importe quelle personne à partir du moment où il l'a touché. Je pourrais me transformer par exemple en Nathalie Lévy si j'en avais envie.
J'adore.
Alors, quand Thomas, l'enfant de la famille, est victime d'un accident, qu'il tombe dans un ravin, eh bien, que va faire Simon? Est-ce qu'il va prendre son apparence et enfin se trouver une famille, ce dont il rêve? Je vous en dis pas plus, mais La dernière vie de Simon, c'est un film qui oscille entre le cinéma de Steven Spielberg et de Robert Zemeckis. C'est tenu de bout en bout, original, crédible. Pour une fois qu'on a ça dans le cinéma français, allez-y, je vous encourage à le découvrir. Ça s'appelle donc La dernière vie de Simon. Vous me regardez avec des grands yeux,
Nathalie.
Oui,
j'ai lu beaucoup de choses dessus, je suis très curieuse d'aller voir et j'adore l'idée que vous vous transformiez. Pas nécessairement moi. Et pour terminer, la grosse prod de la semaine, ça s'appelle The Gentleman. C'est signé Guy Ritchie, l'ex de Madonna, hein,
oui.
On est d'accord. Avec notamment au casting Hugh Grant, Colin Farrell, Matthew McConaughey. Très belle affiche.
Oui,
et ça
oui.
Vaut quoi
c'est efficace.
Quand on a du lourd comme
on
ça.
On en a pour notre argent. Guy Ritchie revient à ses fondamentaux. Alors McConaughey est dealer de marijuana, il domine le marché anglais, mais il en a un peu marre. Il veut raccrocher le pétard et passer la main à l'un de ses concurrents. Sauf qu'un jour, l'une de ses fermes est pillée par un autre concurrent qui lui aussi aimerait reprendre le business. Question d'honneur, évidemment, il doit se venger. Et c'est là que tout part en cacahuète. On est, vous savez, dans le genre de film où les truands sont en costume trois pièces.
Ah oui.
Ils boivent du bourbon. Ils ont une fâcheuse tendance, c'est de transporter beaucoup d'hommes ligotés dans leur coffre, de les torturer un peu. Quand il faut y aller un petit peu plus loin. Voilà, le personnage de Matthew McConaughey, il a cette devise. Dans la jungle, le lion ne survit pas en se comportant comme un roi, mais en étant le roi. Je vous laisse méditer.
Ben voilà, c'est parti.
Il y a des coups de feu dans tous les sens.
On vous dit mardi prochain. Merci beaucoup, Mathieu Charrier. On a toutes les infos pour choisir son film demain. Merci beaucoup. Hugo Clément, alors vous n'êtes pas encore dans les salles sur grand écran, mais ça ne saurait tarder parce qu'il y en a de plus en plus des films sur la planète, des films engagés, bien entendu. Mais il y a l'émission, il y a Sur le front, cette émission qui vous fait à la fois parcourir le monde, mais surtout nous dire, nous montrer ce qui se passe. Alors ça revient bientôt ?
Ouais, ça revient très bientôt sur France 2.
Vous allez où pour la prochaine épisode, enfin pour la prochain Alors, numéro
le prochain numéro sera consacré aux glaciers et à la banquise, tout ce qui est en glace, et qui nous concerne très directement, puisque ce qui se passe notamment au pôle Nord a un impact direct sur le climat ici en France. Et si on perd la banquise, si on perd les glaciers du pôle Nord, on vivra dans des conditions climatiques très difficiles, donc, avec des canicules très très importantes et très régulières.
Vous avez vu de vos yeux, parce que j'imagine que vous y revenez.
On y était.
Ça, vous voyez la différence ? On vous a raconté la différence ?
Ah oui, non, on le voit. La fonte, malheureusement, des glaciers aujourd'hui est tellement rapide, tellement intense, qu'elle se voit presque à l'œil nu. C'est-à-dire qu'on est allé notamment à la mer de glace à Chamonix, en France, avec une glaciologue qui a planté des bâtons de 10 mètres dans le glacier. Et on est revenu 20 jours plus tard, il y avait déjà 1,50 m qui sortait. Donc la fonte, elle est très, très, très visuelle. Ouais. C'est plus du tout quelque chose à 10 ou 20 ans. Ouais.
On a tous peur, on est tous informés, mais pourtant, à peine 1,5 million de personnes sur le premier numéro, comment vous l'expliquez ?
Alors déjà, non, c'était plus.
1,6
C'était plus. Et puis, vous savez, la télévision, aujourd'hui, elle se consomme en linéaire, c'est-à-dire en direct. Et on a fait quand même plus de 300 000 replays, je crois, sur la plateforme France.tv, plus tous les vidéos dérivées sur les réseaux qui ont fait des millions de vues. Donc, on n'est plus dans la structure classique de la télé où on regarde juste à 21h en direct. Il y a beaucoup de gens qui regardent en différé. Donc, on était très satisfaits de l'audience. Après, c'est vrai que les documentaires, les magazines, c'est un format qui est plus exigeant, qui fait moins d'audience faramineuse que le divertissement. Et c'est normal.
Ça restera des numéros exceptionnels. Ce ne sera pas un récurrent une fois par mois, par exemple.
Pour l'instant, c'est 4 numéros par an. Donc, une fois tous les 3-4 mois.
Et ça vous va bien.
Et ça me va très bien parce que c'est quand même des films de 120 minutes avec beaucoup, beaucoup de jours de tournage. Donc, il faut bien les faire.
Bon, on attend sur le front. Alors, le prochain. Merci beaucoup, Hugo Clément, d'être passé chez nous ce soir. Émilie Mazoyer, bonsoir à vous.
Salut, Nathalie Lévy.
Ça va bien ?
Alors, je suis contente parce que ce soir, on reçoit un de mes groupes de rock préférés depuis le milieu des années 2000. C'est des Anglais, ils sont tarés. À la fin des concerts, on a perdu 2 litres de flotte et c'est génial. Ils s'appellent Kaiser Chiefs. Ça, c'est pour les rockers confirmés. Puis ce soir, on aura aussi un petit moment découverte avec un groupe français qui s'appelle Glize et qui fait du rock avec un banjo, une batterie et un tuba.
Ça envoie donc ce soir avec Émilie Mazoyer, ses invités. Merci beaucoup, Émilie. On est à l'écoute. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. On se retrouve demain, ici même, le grand journal du soir, 18h-20h, avec nos invités, nos débats, nos chroniqueurs et bien sûr Anissa.
Et la bonne humeur et tout ce qu'il y a dans le bus des 8-20.
Et demain. Et les autres
on écoute
soirs
le monde
pour écouter le monde changer. Bien sûr. Merci à tous.
C'était Nathalie Lévy sur Europe 1.